C'est bon.
Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est donc le 56e épisode, épisode numéro 55. Nous sommes le 3 septembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens formidables et merveilleux tels que Arnaud Lefebvre.
Bonjour Arnaud. Salut. Qui exactement. Es-tu, Arnaud ? Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe, je fais du développement et de l'opérationnel au sein de la boîte. Voilà.
Nous sommes aussi accompagnés d'une serviette éponge en la qualité de Quentin Adam.
Bonjour à tous.
Qui es-tu, Quentin Adam ?
Je suis le pseudo imprononçable WAXZE sur Twitter et chez Clever Cloud, j'ai le poste magnifique de CEO.
Très bien, et nous avons aujourd'hui un invité formidable, surprise et de marque, qui est Bruno Soulez. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
Qui es-tu Bruno ?
Je suis directeur des opérations chez Cosa Vostra et animateur du podcast au nom aussi difficile à prononcer, If This Then Dev, donc IFTTD pour les intimes.
Qui est un super podcast pour le coup.
Merci, merci.
Moi aussi je trouve que c'est un super podcast.
Nous trouverons tous que c'est un super podcast. D'ailleurs on vous invite à aller le consulter.
Et tu peux juste nous dire ce qu'est Cosa Vostra, vite fait ?
Cosa Vostra, c'est une agence digitale qui accompagne les entreprises sur toute leur stratégie digitale, aussi bien sur la partie purement tech, la partie purement graphique, création de contenu. On est vraiment capable de tout appréhender. Et on travaille avec surtout bienveillance et avec passion.
Et tu veux peut-être décrire un tout petit peu de quoi traite le podcast If Then Then Dev ?
Du coup, on parle de dev dans le podcast If Then Then Dev de manière assez crue, de manière assez directe. L'idée, c'est de se positionner entre des contenus de vulgarisation qui, en général, survolent les techs et ne nous intéressent pas beaucoup en tant que dev, sans aller non plus jusqu'à faire un tuto, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et donc, c'est à chaque fois une émission, chaque semaine, ça dure à peu près une heure où je reçois un expert. Et on parle d'une techno, on a pu parler de différents langages, que ce soit du ADA, on a parlé de Java, on a parlé de PHP, on a parlé de JavaScript plusieurs fois, différentes technos de base de données aussi. On parle de sécurité, on parle de Scrum, on parle de tous les sujets au quotidien du dev. L'idée, c'est permettre à un dev de s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne, parce que c'est aussi comme ça qu'on devient un bon dev, c'est en s'intéressant à autre chose que ce qu'on fait au quotidien.
Ouvrir son esprit.
Exactement.
Et le dernier épisode que vous ayez diffusé peut-être, ou à moins que tu veuilles parler du futur qui va être diffusé.
Alors le dernier que j'ai diffusé mercredi, c'était sur le Scrum. Sur le mois de septembre, j'ai un épisode sur le jeu vidéo, j'ai un épisode sur... j'ai oublié celui que j'ai pas encore enregistré. Il y en a que j'ai enregistré cet été sur Twitch qui est absolument génial, sur un ordinateur quantique. Où j'ai reçu un Quantum Software Engineers, et je trouve que déjà rien que le titre absolument génial. C'est un développeur sur un ordinateur quantique. On parle physique quantique, on parle ordinateur quantique, c'est absolument génial, et puis on découvre le langage qu'ils utilisent. Je vous laisserai découvrir en écoutant l'épisode.
Carrément. Cool. Puis du coup, vous avez aussi des épisodes condensés, c'est ça ?
Ouais, effectivement, pour ceux qui n'ont pas le temps de consacrer une heure à un épisode de podcast, je passe aussi le vendredi, il y a une version compilée où je fais le résumé d'un épisode passé avec un invité futur. Donc ça permet en 10 minutes d'avoir un résumé d'un épisode, d'avoir un peu l'essentiel de l'information, ou de voir si ça vaut le coup d'écouter l'épisode en entier. Donc ça permet aussi d'avoir un point de vue complémentaire. Bref, il y a de quoi faire.
Je n'ose imaginer la notion d'épisode compressé dans l'hémorragie temporelle que devient message à caractère informatique.
On va tenter des épisodes carnel compressés, ça peut être bon. Double joke. En tant qu'on est à évoquer les podcasts, et avant de commencer celui-ci plus dans le vif et qu'on est encore dans l'intro, on peut peut-être évoquer un autre podcast qui a été enregistré cet été, des Cascodeurs, où tu as participé, Quentin, si tu veux en dire un mot peut-être.
Ah oui, tout à fait. Si vous le voulez, il y a eu un épisode des Cascodeurs sur le cloud de confiance. Donc au printemps dernier, il y a eu une annonce du gouvernement sur le cloud de confiance et un peu la souveraineté technologique française. Et du coup, on a fait un long épisode avec Emmanuel des Cascodeurs, et je pense que cet épisode est bien. Voilà. Donc, puis les Cascodeurs, c'est bien à écouter, quoi. Donc,
c'est bien. Si donc, ça traitait de quoi? Ça traitait de garder les datas en Europe, autre chose comme ça, ou c'est un peu plus technique?
Ouais, c'était assez focus sur le fait, en fait, l'État a fait une, ce qu'ils ont appelé la doctrine cloud, qui était comment l'État allait utiliser le cloud. Et en fait, du coup, à l'occasion de cette édition, on avait fait une tribune avec quelques amis pour expliquer qu'on n'était pas nécessairement complètement en phase avec tout ce qui avait été dit, mais dans un esprit d'aller plus loin et d'être positif, quoi. Et donc, du coup, on avait fait un truc là-dessus. On a bien débunké tout le dossier avec Emmanuel dans cet épisode. Donc, je pense s'il y a des gens que ça intéresse de se poser la question de comment on peut faire de la souveraineté française, ça s'est orienté solution, en fait. Hein. C'est un épisode qui est là pour ça. Quoi.
Et donc, en parlant de souveraineté française et de modèle français, sans transition, comme disait l'autre, Bruno, tu nous as proposé un lien vers un article que je t'invite à présenter.
Ouais, c'est un article que j'ai trouvé intéressant qui explique que le monde devient de plus en plus français. Il y a encore quelques années, le modèle français était parfois plus ou moins décrié à droite à gauche. On parlait beaucoup du modèle anglo-saxon, du modèle allemand, même quand on était en France. Là, ça explique qu'en fait, il y a de plus en plus de pays qui regardent un peu le modèle français avec intérêt. L'article évoque le cas de la Pologne qui s'intéresse au fait qu'on a une indépendance énergétique carbone-free avec le nucléaire. Ça intéresse aussi à l'Angleterre et aux États-Unis qui prennent notre modèle de ces grands chantiers qu'on a qui permettent quand même de participer à l'effort national, à l'économie, tout ça, donc avec notamment le TGV ou les autoroutes, tout genre de choses. C'est ce qui nous a permis, nous aussi, en France, d'avoir la fibre déployée quand même aussi bien un peu partout dans le pays, quand même assez tôt par rapport à beaucoup d'autres. Ce qui nous permet aussi d'avoir des connexions internet qui sont pas chères par rapport à ce qui se fait notamment aux US, où c'est quand même exorbitant d'avoir une connexion fibre au même niveau de service que ce qu'on a en France. C'est quand même assez hallucinant.
Quasiment partout d'ailleurs, parce que c'est assez relativement inégal. Je crois il y a sans doute des endroits où c'est peut-être plus abordable, mais pas beaucoup.
Je crois qu'en général, on est genre dans le top 3 du classement en général sur le prix au mégaoctet de la connexion. Et l'article évoque aussi l'accès à la santé, le fait qu'on a une population qui vieillit quand même mieux que beaucoup de pays, le fait qu'on a un taux natalité qui reste très bon par rapport à nos voisins européens. Et donc, c'est des choses qui intéressent beaucoup de pays occidentaux, qui essaient de se mettre un peu à ce fonctionnement. Et ça résonnait aussi avec moi, ce que je vois beaucoup sur TikTok en ce moment, où je vois beaucoup d'Américains qui découvrent que payer 200 000 dollars pour une nuit à l'hôpital, c'est pas normal, que commencer sa journée à l'école en mettant sa main sur le cœur pour prêter allégeance au drapeau américain, c'est pas normal non plus. Que le fait qu'un Américain...
Surtout quand on n'est pas aux États-Unis.
Aussi. Bah oui, pour le coup. Hein.
Le fait qu'un Américain sur deux ait une arme, c'est pas normal. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Ils découvrent en s'ouvrant sur le monde qu'en fait, ce qu'ils appellent le socialisme, en fait, c'est pas forcément le grand méchant loup comme ils l'évoquent si souvent. Quoi.
Et tout ça grâce à TikTok, donc.
Bah ouais. Ouais.
C'est dingue. Hein.
Okay. Ce qui est du coup un coup des Chinois.
Bah ouais.
Ce qui est quand même pas mal. C'est vrai que réussir à convertir les Américains au socialisme avec une application qui vient d'un pays communiste, c'est quand même assez.
Communiste.
C'est... Ouais, ok, d'accord. Et c'est cool d'entendre ça quand même au final, quoi. Enfin, ou du moins d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large. Après, est-ce qu'on est modèle dans tout ce qu'on fait? J'imagine que non, mais.
Non.
Voilà.
J'ai envie de dire heureusement, mais c'est assez rare de voir des articles anglo-saxons comme ça.
Ouais, clairement.
Parce qu'en général, c'est quand même. Enfin, il y a toujours, même quand il y a une petite, tu vois, une petite flatterie sur un truc, il y a toujours un petit bashing derrière. Quoi. Mais bon, et c'est vrai qu'il y a des retournements politiques. Après, bon, comme on aime bien râler chez nous, on aime bien voir tout ce qui ne va pas. Et puis, quand tu bouges ailleurs, tu te rends compte de ce qui est bien. Quoi.
C'est en effet assez reconnu que les Français sont les plus critiques envers eux-mêmes.
Bon, à l'exception des Anglais, quoi. Mais
eux, c'est de la mauvaise foi. C'est pas pareil.
C'est vrai, exactement comme là, c'est ça. Nous, on en est capable. et en restant un tout petit peu sur les problème. Alors, c'est vrai que l'enchaînement se fait un peu moins bien sur les données privées, mais,
mais
en tout cas, ouais, là, il y a eu tout un souci. Donc, il t'a mis un autre lien sur un souci de gestion de données privées pour les employés d'Apple, pour le coup, qui et pas pour forcément les clients.
Ouais. C'est effectivement une enquête que j'ai vue sur le site américain Verge, qui est assez hallucinante. Apple, qui se présente quand même comme un défenseur de la vie privée, c'est quand même leur campagne marketing partout. Mmh. Il s'avère qu'en fait, ils demandent à leurs employés d'utiliser leur compte Apple perso pour le quotidien chez Apple. Donc, ça veut dire que tous les documents qu'ils partagent en interne sont en fait créés avec leur...
ils doivent lier leur compte.
Leur compte, voilà, leur compte perso.
Ah oui.
C'est impossible de créer un compte Apple avec une adresse en @apple.com. Donc, ils ont vraiment fait en sorte que tu puisses pas te créer un compte Apple dédié à ton taf. Il est avéré que du coup, quand tu crées un document sur ton drive perso, tu penses pas forcément à le mettre dans le répertoire dédié à Apple, et donc du coup, tu as ton espace perso qui est pollué de doc Apple. Quand du coup tu fais des bug reports pour tes collègues, en fait, bah, t'as plein de données personnelles de ton téléphone qui sont du coup envoyées à tous tes collègues, parce que du coup ils te font en sorte que tes appareils soient perso, soient utilisés aussi pour toute une batterie de tests. Et quand ils te mettent un appareil à disposition, ils te demandent de mettre ton compte perso dessus pour l'utiliser pour les tests et compagnie. Et le plus beau, pour terminer, c'est que quand tu rends ton matos, ils t'interdisent de reset ta machine. Et du coup, il récupère ton appareil avec toutes tes données perso dessus.
Ah, c'est dingue.
C'est étonnant. Je trouve que c'est une politique IT qui est... Enfin, c'est hyper bizarre, quoi. C'est comme si tu disais aux gens, quand ils arrivent pour bosser, bah écoute, tu vas te servir de ta Gmail, gros. Tu vois.
Il y a une part là-dedans que moi, je trouverais défendable, c'est le fait de dire une personne a une identité et tu veux l'identifier comme c'est elle. Après, le fait de... pas faire de pas permettre ensuite à l'intérieur des systèmes d'avoir une dichotomie entre ton profil personnel et ton profil privé, c'est ça qui est embêtant. C'est
ce que, par exemple, Google fait très bien, tu vois, t'as le multi-account Google. Après, moi, sur la définition de l'identité, je dirais que l'identité n'est pas absolue, l'identité est toujours contextuelle. Et donc, ouais. Si tu veux, après que tu puisses dire aux gens, on va lier pour des raisons de gestion du Apple hardware, qui est un peu linké sur l'histoire d'Apple ID, ça je l'entendrais, mais que tes mails et que tes docs soient comme ça, enfin, même moi, si j'étais DSI, je serais hyper mal à l'aise, en fait. Cette espèce de mélange me gonflerait, mais complètement.
Bah, c'est surtout que ça doit compliquer pas mal dans le sens inverse, c'est-à-dire que si tu veux bloquer l'accès de quelqu'un sans lui enlever l'accès à ses données personnelles, ça devient quand même un sacré micmac, quoi.
Tu parles aussi de dichotomie tout à l'heure. Dans l'article, ils évoquent aussi le fait que Slack est depuis récemment l'outil par défaut de communication au sein d'Apple, mais qu'il y a encore des équipes qui utilisent iMessage comme outil de communication au sein de l'équipe. Et iMessage, comme c'est un truc de communication similaire à du SMS quasiment, en fait, du coup, tu n'as pas d'opt-out possible, en fait. Donc tu restes, si tu veux sortir d'une boucle de conversation, bah, tu fais quelqu'un remettre un message et tu es de nouveau dedans, quoi. Donc il y a une espèce de parasitage complet de tout ce mélange, effectivement, de ta sphère privée et sphère pro qui est quand même assez hallucinante. Quoi.
Et mais du coup, ça fait longtemps que c'est comme ça là-bas ou
Il n'y avait pas de temporalité dans l'article. Mais en tout cas, il parle de salariés qui y sont depuis plusieurs années et qui ont connu ça à leur arrivée. C'est-à-dire que le manager au début te dit non, mais mets ton compte perso, c'est très bien, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Ok.
Après, c'est toujours sur la question du cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire quelque part, est-ce que c'est vraiment sciemment ou est-ce que c'est juste par absence de design d'une solution interne? C'est-à-dire qu'on va réutiliser le système qu'on donne aux clients dehors et on n'a rien fait spécifiquement, mais.
Bah, à partir du moment où si t'interdis aux gens de faire un reset de sa machine, ouais. Et tu sais qu'il y a les données perso dessus, il y a quand même une volonté quand même de, qui est quand même étrange.
Je sais qu'il y avait aussi un sujet chez Facebook un peu compliqué, où pareil, t'as une intrication de ton compte perso, ton compte pro, t'as deux profils, mais les deux sont plus ou moins liés, t'as un truc dans Facebook qui émet une alerte quand tu vas voir en tant qu'employé de Facebook, le profil de quelqu'un que tu connais dans ton graphe d'amis. Enfin, c'est assez compliqué leur approche. mais je sais qu'ils ont aussi un sujet complexe là-dessus. Ou en fait, ils ont quand même, tu vois, aussi l'obligation de savoir qui sont les gens pour pouvoir checker qu'ils vont pas, genre checker les profils Facebook de leurs potes. Tu vois, enfin, je sais que le sujet est assez complexe chez Facebook aussi. Je me souviens plus exactement du dossier, mais je sais que c'est assez compliqué aussi.
Après, ce genre d'article, j'ai trouvé toujours intéressant, et ce serait intéressant, mais même si ça n'arriverait jamais, d'avoir un droit de réponse, de savoir exactement quelles sont les causes qui ont amené à ça, ou peut-être d'ailleurs que c'est exagéré dans la manière dont c'est formulé, mais qu'est-ce qui a amené à ça? Est-ce que c'est lié à des politiques particulières de sécurité ou à des cas particuliers de personnes qui ont essayé de faire des exploits avec leur compte perso ou des trucs comme ça? Du coup, ils veulent tracer ce que font les gens. Enfin, c'est compliqué de savoir.
Au moment où on évoque l'article, c'est précisé en bas que Apple n'a pas encore répondu aux questions de.
Voilà, très... À suivre.
Ouais, vont-ils le faire, en fait.
Ouais, moi, ça serait étonnant qu'ils répondent à The Verge sur ce truc en particulier.
Ouais.
Ils ont probablement été sollicités en amont et ils n'ont pas répondu déjà.
Oui, ça c'est quasiment. Bah, j'espère que. Que ça a été fait, on va dire, plus ou moins.
Oui, non, oui. Sinon, il y a un petit dossier, quand même.
Ouais, clairement.
En restant sur Apple, mais sur quelque chose d'un peu plus musical, pour le coup, Quentin, t'as mis un lien sur, justement, l'acquisition d'un service par Apple.
Ouais. En fait, Apple a acheté Prime Phonic, qui était un service de streaming musical dédié à la musique classique. Et j'ai mis le lien parce que je trouve ça assez intéressant parce que en fait pour moi il y a un vrai sujet de modélisation de la data. En fait tous les services de streaming, tu vois, visualisent la data comme étant t'as un artiste, l'artiste a des albums et dans l'album t'as des tracks. Et en fait quand tu cherches de la musique classique, bah c'est hyper chiant comme modèle parce que le titre de l'article est plus ou moins bien fait, l'indexation des tracks est plus ou moins bien fait. Et en fait ce que tu cherches en musique classique, c'est la notion de compositeur, d'interprète, mais t'as également la notion d'orchestre et de chef d'orchestre. C'est-à-dire que t'as Karajan, il peut avoir conduit l'orchestre de Londres et l'orchestre de Berlin, et le Philharmonic de Berlin, dans une pièce. Et ce qui peut t'intéresser, c'est d'écouter le premier mouvement de la symphonie de Beethoven par Karajan à Londres et à Berlin, puis de l'entendre avec un autre chef. Et en fait la data modélisation de ça, bah, elle existe pas du tout, en fait.
Oui, c'est pas des albums et des titres. C'est pas des albums, des titres avec un interprète à chaque truc unique. Ouais.
Et du coup, en fait, écouter de la musique classique est globalement assez painful, en fait, sur les plateformes de streaming. La seule solution qu'ils ont tous trouvé, c'est en fait de virer énormément de références. En fait, ils gardent que quelques enregistrements de chaque pièce pour que du coup trouver une pièce soit jouable. Et ce qui est assez pénible comme truc. Et en fait, ils sont face à une complexité qui est quand les maisons de disques leur livrent en fait les noms de tracks et les machins. En fait, ils te livrent pas cette notion complexe de comprendre quel est le compositeur, le machin, etc. Et sur certains compositeurs, ça existe, enfin, notamment sur Mozart. T'as un musicologue connu qui s'est tapé le classement par opus de tout, et parfois l'opus est précisé, pas précisé. Enfin voilà. En fait, il y a un vrai problème de data modélisation. Et donc, il y a quelques startups qui existent qui voulaient faire du streaming dans le monde du classique. Et je trouvais assez intéressant qu'Apple, dans l'idée de continuer ses verticales dans Apple Music, en fait, ils ont acheté cette boîte qui s'appelle Prime Phonic, avec le but d'avoir un service dans Apple Music classé ça. Et en fait, quand ils l'achètent, bah, en fait, ils en arrivent à la conclusion, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, bah, en fait, on ne va pas... En fait, on va pas intégrer complètement le service dans l'interface et la UI d'Apple Music. On va vous sortir une application dédiée où vous vous connectez avec votre abonnement Apple Music. Enfin, l'idée est pas du tout de prendre du surplus, mais vous, et en fait, ce sera une UX dédiée, une expérience dédiée pour la musique classique, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé le moyen de le rentrer dedans. Et je trouvais que c'était une histoire assez intéressante d'un point de vue soft et expérience produit, en fait, de voir ce truc-là. Et je suis content de voir les géants du streaming s'emparer enfin du problème du classique, parce que c'est un vrai gros problème, quoi.
Donc c'est sympa pour avoir une expérience peut-être complètement dédiée à ce type de musique, ouais. Bah, la partie application dédiée, j'avoue, je sais pas, c'est pas un peu too much, mais
ça peut faire un peu élitiste, ouais, c'est un peu le...
Ouais. Mais bon.
Après, je pense qu'ils cherchent peut-être à adresser un public différent aussi, hein.
Ah,
en
bah,
même temps,
ouais, probablement, ouais. Probablement, un public qui
n'existe
peut-être pas.
Mais je pense en même temps qu'il y a un côté plus freeform dans la structure de la musique et des choses que tu veux présenter et de tout ça qui fait que tu veux pas juste mettre une album cover par exemple, des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être vrai. Plus intéressant. Peut-être qu'après ils veulent aussi coller ça avec des partitions, mettre ça avec des services plus intéressants liés à la musique elle-même.
C'est pas... Il n'y avait pas une volonté aussi d'utiliser le, au travers de cette nouvelle app, de faire de mieux utiliser la spatialisation du son sur tous les devices Apple qui font beaucoup maintenant, qui dans le classique, je crois, a quand même plus de valeur que dans le dernier
Device. Et puis la gestion de la qualité du son aussi, parce que si tu veux utiliser vraiment bien du côté du classique, c'est clair qu'un MP3 mal compressé, c'est pas top top.
Ouais, moi, je sais qu'on en parle dans le communiqué de presse, mais je trouve que c'est un peu bullshit. Pour moi, ça va être essentiellement de l'accès à la data, parce que pour moi, de toute façon, ils tapent la même base d'audio. Hein.
Il y a des chances.
Alors moi, de la façon dont je l'ai compris, c'est que tu tapes la même base d'audio. Quoi. Et en fait, ça, ce qui m'a fait marrer, c'est que pour moi, la question, elle se pose sur d'autres typologies d'écoute de musique. Quand tu prends un sujet comme les mix, par exemple, tu vois, si tu vas dans l'écosystème électro, pour le coup, en fait, autant sur SoundCloud, tu as une vraie expérience de l'idée du mix avec les différentes phases du mix, les différentes... Enfin, tu vois quelles ont été les... Ah, le moment où je perds les mots. Quand tu prends des morceaux de musique...
Des samples
qui ont été utilisés ou des musiques qui ont été mises dans un mix, etc. Où SoundCloud a cette vraie expérience...
Très de lien...
Avec la notion qu'il n'y ait pas trop d'albums, mais vraiment, je te pousse des trucs et tout. Et en fait, quand t'es sur Apple Music, c'est... Enfin, l'expérience mix, elle est pourrie. T'as juste une track d'une heure. Et puis, bah, bisous, bonne journée, quoi. Et alors que tu vois toute cette histoire où, en fait, quand il y a quelqu'un qui sort un sample, il va être remixé X fois. Et en fait, t'as une vision un peu buissonnante, comme ça, d'un morceau. Et tu vois, qui existe aussi dans la musique électro. Où, pour le coup, bah... T'es plus du tout dans le même modèle que dans le classique. Pour moi, t'es encore un autre data model. Et aujourd'hui, il est pas du tout bien adressé non plus dans les gros streamers. Enfin, il y a SoundCloud qui le fait. Mais bon, SoundCloud, ils ont été collés à la hache dans leur modèle, le catalogue généraliste. Et du coup, c'est, en fait, moi, je trouve qu'ils ont vachement pénalisé leur expérience à ce moment-là. Enfin, je trouve que ça a vachement pénalisé pour moi l'expérience du truc. Et je trouve que c'est assez intéressant que, une boîte comme Apple commence à regarder les différents axes de comment on identifie le son qu'on va écouter, pourquoi, dans quel sens. Et je trouvais ça intéressant. Je sais pas s'ils vont le sortir aussi pour l'électro. Je sais pas si.
Ouais, si des choses à faire peut-être même aussi. Autour du jazz. Il y a pas mal de problématiques du même genre, je pense.
Ah, clairement, dans le jazz, il y a une vraie problématique. Mais tu vois, par exemple, rien que en data, tu vois, aller classer dans les morceaux de jazz. Le ça, alors en fait, c'était Lonus Monk qui est passé tel jour, machin, et en fait, c'est une reprise de tel thème et tout. Enfin, genre, soit tu le fais à la mano avec une bande de fondu du jazz, soit tu t'essayes de le faire, je sais pas, peut-être en live. Enfin, je trouve que c'est... Et tu vois, je pense qu'il y aurait un vrai sujet, tu vois, d'aller chercher des niches comme ça et de les bosser. Et pour moi, faut être très gros pour pouvoir le faire, parce que... C'est des marchés qui sont polémiques en fait à chaque fois. Et...
C'est sûr. Et donc pour battre ces idées reçues sur la manière de consommer la musique, peut-être discuter des idées reçues qu'on a aussi dans le monde du développement. Ça, c'est de l'enchaînement.
pas mal.
Ouais, c'est effectivement. Alors, c'est une vieille vidéo dont je parle assez régulièrement, que j'aime beaucoup. C'est une conférence de Brett Victor qui date de 2013, donc c'est vraiment pas quelque chose de récent. Mais pour vous donner l'ordre d'idée, en fait, on avait donné comme consigne à Brett Victor de faire une projection sur qu'est-ce que serait le dev dans 40 ans. Et plutôt que d'imaginer ce que serait le dev en 2053, il a fait sa conférence comme s'il était en 1973 pour imaginer ce qu'aurait dû être du coup le dev en 2013. Et donc il arrive avec un rétroprojecteur, il a sa petite chemise avec le petit crayon dans le, il a le cliché de l'ingénieur informaticien en 1973. Voilà, exactement. Ouais. Et la presse en fait est super intéressante. Ouais. Il la découpe en quatre points. Et ce qu'il explique du coup, c'est qu'en 73, c'est le début notamment du Fortran, et que les gens qui font de l'assembleur à l'époque considèrent que le Fortran, c'est du langage haut niveau et que du coup, c'est pas intéressant.
C'est pas de la programmation.
C'est pas de la programmation, c'est pas du vrai dev. Et il explique qu'en fait, les gens qui font de l'assembleur aujourd'hui, ils ont connu la même chose quelques années auparavant avec les gens qui faisaient du binaire directement, et que même Von Neumann disait que personne n'aurait besoin d'autre chose que du langage binaire pour faire de l'informatique. Et que donc, en fait, à chaque fois qu'on ajoute un nouveau langage, il est plus ou moins décrié par ceux qui l'utilisait avant. il montre que déjà en 73, on avait des systèmes qui étaient capables de faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance d'écriture. Et du coup, il disait clairement, on n'aura pas besoin on n'aura plus besoin d'écrire de langage, de programmer tout un tas de programmes dans 40 ans, qu'on est en train de quitter le. Il fait un moment une phrase assez marrante, il explique que maintenant, il y a des gens qui font des trucs marrants, qui branchent des écrans sur les ordinateurs et qui, du coup, peuvent avoir une représentation spatiale des choses. Il dit maintenant qu'on n'a plus besoin d'écrire son langage sur des trucs, sur des cartes perforées ou des bandes magnétiques. Il n'y a plus de notion, il n'y a plus d'obligation parce que le langage, le code, et un fonctionnement linéaire. Et donc, il dit, on n'aura plus besoin d'écrire du code en tant que tel. On pourra le dessiner, on pourra le verbaliser, on pourra l'imager, parce qu'il n'y aura plus cette notion d'obligation de linéarité, en fait. Et donc, la conférence est assez impressionnante. Je trouve assez fun. Et il conclut en disant qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on n'inculque pas des dogmes et des choses qu'on n'inculque pas à des nouvelles générations des trucs que nous, on considère comme étant la façon de faire. C'est comme ça que les dogmes naissent et qu'en fait il faut se garder un petit peu de fraîcheur et que ce qui marchait à l'époque c'est qu'en fait il n'y avait rien existé, qu'il fallait tout inventer et que c'est ce qui faisait aussi la richesse de l'innovation à l'époque et que voilà aujourd'hui en fait on perpétue des dogmes les uns après les autres en disant que c'est comme ça qu'il faut coder, c'est comme ça qu'il faut faire alors qu'en fait il y a peut-être des tas de façons différentes de faire qui seraient tout aussi efficaces, peut-être même plus adaptées à certains environnements, que ce soit le monde de la musique classique ou je ne sais quoi.
comme on disait tout à l'heure avant l'épisode, en fait un dogme en chasse l'autre, c'est-à-dire que souvent on a l'impression de lutter contre des dogmes puis finalement on apporte soi-même son propre dogme qui sera probablement chassé par le suivant mais c'est comme ça que ça avance, c'est en se remettant un peu en cause.
Et donc du coup il parlait de la partie il y aura des ordinateurs qui coderont eux-mêmes du coup, ou c'est pas allé jusque là, où il est toujours en mode il y aura quand même besoin encore de personnes.
Alors si ouais, ou... il évoque ça à un moment, il dit qu'en fait comme les machines en fait en 73 commençaient tout juste à avoir cette notion d'objectif et que t'étais plus obligé d'écrire des procédures mais tu pouvais faire un tu vois, c'était le début des regex en 67 je crois que ce qu'il dit c'est l'arrivée des regex. Donc il dit les machines sont capables de détecter des patterns. Donc clairement, dans 40 ans, en fait, les machines seront capables d'imaginer elles-mêmes comment communiquer entre elles. Et clairement, on n'aura jamais besoin de programmer un truc qu'on pourrait appeler une API, où du coup, les gens seraient obligés de programmer comment est-ce qu'on communique avec une machine. Les machines seraient capables de communiquer toutes seules. Voilà, pour un moment, il fait des petites blagues comme ça en disant bon, clairement, on n'aura jamais besoin de faire ça.
Ouais.
C'est effectivement un truc qu'on fait tous aujourd'hui, mais c'était. Voilà, donc c'est une vieille conf, 2013, hein, ça commence à dater. Mais je pense qu'elle est vraiment intéressante, elle est vraiment révélatrice de pas mal de choses dans notre.
Du coup, elle a un petit côté intemporel. Ouais.
Complètement.
Ouais. Bah ouais. Et est-ce que s'il la refaisait aujourd'hui, ça serait la même chose ou est-ce que ce serait.
Il changerait peut-être un ou deux exemples. Quoi. Parce qu'il prend des exemples qui étaient la mode du moment de 2013 et puis il rajouterait peut-être.
Bah ouais.
Il y aurait peut-être quelques petites piques sur les microservices ou un truc comme ça, probablement.
Exactement, ouais.
Ouais, certainement.
Clairement. L'IoT aussi, enfin, je sais pas. Ok.
Et donc, attention, transition troll. Donc, en parlant de 1973, il y a une nouvelle sortie de Debian cet été. Non, celle-là, on avait dit que c'était vraiment pour faire un troll, mais il y a une bonne nouvelle de sortie de Debian cet été, de la Debian 11, qui passe donc du coup sur les kernels 5, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que ça faisait un moment que c'était stuck en 4.
Après, là, c'est sur la LTS de la 5, j'imagine. C'est pour ça que.
Ouais, c'est ça. En plus, c'est
du. Juste en 4 avant.
Et en plus, non, mais là, du coup, c'est. Je crois que tenir Debian, c'est toujours plus ou moins du LTS, si on veut. Mais oui. C'est une distribution stable qui est en 5. Hein. C'est-à-dire que. Non, mais c'était pas un troll ce que je disais, là, Quentin, je l'entends rigoler, mais c'est. Debian, c'est par définition, ils sont pas sur le bleeding edge, donc ils sont plutôt un peu en retrait par rapport aux toutes dernières versions, et c'est toujours un peu conservateur. Bah, je vais sans doute me faire moi troller par des gens qui vont dire, mais non, pas du tout, et tout, mais enfin, c'est quand même un peu. Et donc, le fait que ça vienne sur le 5, c'est plutôt une bonne nouvelle que les distros plus conservatrices commencent à s'aligner sur les dernières versions de kernel. Même si c'est pas les toutes dernières, on est quand même sur la dernière série. 5.10,
voilà,
c'est pas vieux, pour le coup.
Bah, du coup, ils ont regardé maintenant. enfin dans le kernel, parce que
ça devrait du coup pouvoir avoir du WireGuard, même si je l'ai pas vu trop dans les release notes. Du coup, il y a potentiellement.
Moi, j'imagine qu'ils l'ont activé.
Il y a des chances. Il y a pas mal de choses dans les release notes, donc on a mis le lien dans les show notes.
Juste pour rappeler WireGuard, juste pour rappeler.
Ouais, vas-y.
WireGuard, c'est un nouveau VPN en fait de, qui a été introduit dans le kernel Linux il y a quelques années maintenant. Il y a 3 ans, je crois. Mais qui est 2 ans, mais qui était déjà disponible avant en module externe si vous le souhaitiez, et c'est l'un j'ai envie de dire l'un des VPN les plus simples niveau code en fait. Il est très très stupide, il utilise des algorithmes très récents, donc il vous offre pas une configuration incroyable à ce niveau là mais d'un autre côté, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir des algorithmes qui datent d'il y a 40 ans quoi pour le chiffrer? Mais du coup, voilà, c'est en tout cas, c'est un VPN assez simple, sympa.
On en reparlera un tout petit peu plus tard.
C'est vrai, tout à fait.
Du coup, pour le coup. Et dans les trucs que j'ai noté qui étaient intéressants, il y a le support des contrôle groupes V2. Donc, c'est quand même vachement bien pour les gens qui font notamment des conteneurs, qui vont pouvoir faire du conteneur en mode user, c'est-à-dire en rootless, en daemonless, comme on dit. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal.
En clair, utiliser Podman.
Par exemple, mais aussi les versions récentes de Docker qui le permettent.
C'est ce que j'allais dire.
En tout cas, pour la partie Docker CLI. Quoi. Et il y a le support de. Voilà, plein de choses qui viennent du coup avec le kernel 5, comme XFAT, comme des versions. Du coup, alors ça vient pas avec le kernel, mais du coup, ils mettent aussi à jour GCC. Donc, on va avoir des choses qui seront compilées avec des versions de GCC un peu plus récentes. Ce qui, en termes de bug fix, est aussi une bonne chose. Donc, globalement, c'est un bon saut, là, pour le coup. Super, bonne nouvelle pour les gens qui utilisent activement Debian.
Est-ce que tu as dit comment s'appelait cette release? Parce que toutes les releases de Debian ont un nom.
Non, je ne l'ai pas dit.
Ah, bah, sur quoi?
C'est, mais... c'est l'œil du
taureau.
Du bœuf. Du taureau.
Bullseye.
On dit pas bœuf, du. Comment on appelle ça? C'est boule, c'est.
C'est le taureau, non?
Ouais, c'est taureau, ouais.
Ouais, peut-être. Ouais,
simplement.
Non,
c'est
pas.
Le taureau. Ouais. C'est le taureau.
C'est ça, l'œil de taureau.
Ouais, enfin, le C-Lang, il est quand même pas hyper récent, non?
Non, bah, après,
par rapport à GCC 8, en GCC 10.2, on est un peu plus récent.
Bah, la 10.2, elle date d'il y a un an, je crois, maintenant.
Ouais, c'est ça, à peu près. Bah, comme le kernel 5.10, à peu près. Hein, à peu près d'un an. Encore une fois, ils sont jamais complètement sur le bleeding edge, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'être... dans les dernières séries quand même.
Ouais, d'accord, avec toi. Moi, tu vois, je vois le monde du software, c'est comme étant une espèce de languette qui avance, tu vois, dans le temps. Et en fait, pour moi, Debian, ils sont toujours sur le bleeding edge de l'arrière, tu vois. Genre, ils sont toujours sur le point de tomber. Genre, voire, ils sont déjà tombés, tu sais, dans le truc qui est EOL depuis 10 000 ans, et là, ils disent, on l'a mis à jour.
C'est dire qu'on avait dit qu'on ferait juste un troll pour rigoler au début et pas de troll après, et on finit sur un troll.
Ouais, mais moi c'est en fait, enfin, j'ai quand même un problème avec les paquets Debian, avec les mecs qui vont taper des commits de bug fix soi-disant dans le futur, tu vois, les réinjectent comme des bourrins sans comprendre comment marche le paquet, et tu te retrouves avec des softs qui ont des comportements discutables. Enfin,
la plupart des distros comme ça, que ce soit CentOS, fut un temps, même si c'est en train de muter progressivement, et toutes ces distros qui étaient
plus sur le rapide, hein.
Bah, un peu plus, mais par le fait qu'il y a Apple, qu'il y a Fedora, qui ramène des packages récents et tout ça, mais tous ces distros un peu laid back, elles sont en train d'amorcer une mutation vers quelque chose d'un peu plus, qui va avec le changement de, on va dire, d'acceptation par les gens du fait de se mettre à jour. Et c'est, globalement, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que les releases des biens sont plus fréquentes quand même.
Le paradigme sécuritaire a changé, mec.
Aussi, complètement.
C'est pour moi, c'est essentiellement ça. Enfin, tu vois, à une époque, effectivement, il fallait attendre. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre. La sécurité, c'est d'être sur le chemin, tu vois. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, le dossier. Je pense qu'il vaut mieux être en avance aujourd'hui que trop en retard. Enfin, c'est mon approche de la sécurité.
Après, ça reste une rolling release, en effet, quoi. Enfin, il y a pas de, j'ai pas l'impression qu'ils aient l'envie, tu vois, de partir en mode. Non, pas une rolling release, justement.
Non, justement, c'est pas une rolling
release. Ils font du packaging.
Là, il y a des gens qui vont être sur la 11 pendant un bon moment.
Bah oui, c'est ça.
La 11, mais ils vont la garder un moment.
D'ailleurs, elle est supportée pendant combien de temps? Enfin, genre.
Honnêtement, je sais pas.
Tu sais pas, ok.
J'ai pas regardé.
Parce que je sais plus si elles sont toutes supportées genre 10 ans ou si il y en a une de temps en temps qui est supportée pendant super longtemps comparé aux autres. Il me semble que Ubuntu bah, fait un peu plus ça, mais en même temps ils sortent des versions un peu plus.
Alors Ubuntu, ouais, ils ont des LTS. Et puis après Ubuntu, ouais. Il y a aussi des versions Enterprise, alors que Debian, il n'y a pas de.
Ils ne sont pas allés jusque-là.
Enterprise, si tu veux. Ça reste
okay, un okay. Projet.
Bullseye, ils la supporteront jusqu'en 2024 ou 2026. C'est ce qui est écrit sur leur site web. Okay, sachant que Debian 10, donc Buster, il est prévu pour être en support jusqu'en 2022-2024. Et aujourd'hui, la LTS courante, c'est la 9, c'est Stretched. Bon, c'est toujours Stretched. Hein. Stretched ouais. Est sorti il y a quand même... je me demande si c'est pas sorti sous Sarkozy, ça.
C'était quand 5-6 ans, non
voilà.
Non, c'est vieux Stretched, en vrai. C'est a priori Stretch serait supporté jusqu'à l'année prochaine. Enfin, genre, vous avez 10 mois quoi.
Après, il faut se dire que, et encore une fois, c'est pas pour justifier, mais il y a pas mal de distributions d'entreprises qui sont encore sur du kernel 4, repatchées et ainsi de suite, et qui sont pas non plus sur les dernières versions et de loin. Donc, ça reste quand même pas une. Sans être une excellente nouvelle, c'est quand même plutôt mieux. C'est quand même plutôt mieux et ça permet au moins. En plus, ça permet d'éviter un spread trop grand entre les distros des outils. Les contrôle groupe V2, par exemple, le fait que tu aies encore besoin de supporter les contrôle groupe V1, ça drop tous les outils liés au conteneur vers le bas. Parce que tu dois avoir un code qui supporte les deux tout le temps et tout doit être testé sur les deux tout le temps et c'est vraiment fastidieux. Quoi.
Ouais, mais tu vois, la faille de sécu des conteneurs. Avec, tu vois, elle est liée directement à ces sales pratiques ouais. De laisser traîner des espèces de binaires qui ont 2000 ans, tu vois, et de dire aux développeurs, ah bah maintenant tu vas t'installer sur ça et va faire de l'archéopaléontologie pour te trouver ne serait-ce qu'un compilo qui acceptera de prendre la glibc qu'on a en autorisation sur nos serveurs parce que nous, hop, avons décidé que la paléontologie était faite pour faire de la production, tu vois. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui te disent, bah non, ça va pas être possible. Et donc, qui globalement te font un gros paquet de binaires serrés bien sales, tu vois. Après, ils appellent ça conteneur, ou tu vois, ça peut être installé à vrac dans /opt, tu vois, on peut l'appeler comme ça aussi. Et du coup, tu te retrouves avec des binaires, en fait, qui vivent comme ça, dans le temps et l'espace, sans bouger, qui sont plus dans le système de paquets, ni rien. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème culturel pour moi, qui est de se dire, ok, aujourd'hui, il faut changer cette approche qui est de regarder le passé en permanence. C'est pas bien.
Bon, là, on est dans le futur du passé.
Donc, ça... Oui, ouais. C'est ça.
Et bon, pour continuer sur les conteneurs...
Donc, on dit que Debian, maintenant, ça power le Futuroscope ou pas?
Bah, tu l'as dit. pour continuer un peu sur les conteneurs, même si là, pour le coup, c'est pas technologiquement, donc il y a Docker qui a annoncé que Docker Desktop, donc, est utilisé sur Mac et sur Windows, hein. Donc c'est pour les gens qui utilisent Linux, ils ont probablement jamais, qui utilisent que Linux, disons, ont probablement jamais interagi avec.
Mais je pense surtout qu'il n'y a pas de version Linux de Docker Desktop.
Non, il n'y en a pas. J'ai toujours trouvé ça un peu dommage, mais en même temps compréhensible d'un point de vue cible, entre guillemets, tant qu'il était gratuit. Ça viendra peut-être. Et donc Docker Desktop, pour le coup, n'est plus gratuit pour les grands comptes. Alors là, il y a une espèce de sweet spot qu'ils essaient de trouver avec le nombre de personnes ou le chiffre d'affaires, je sais plus si c'est le chiffre d'affaires ou un truc comme ça de la société.
C'est les deux.
C'est les deux, voilà. C'est l'un et ou l'autre, en fait. Le premier atteint, on va dire. Et c'est 250 personnes. Donc, bon, si vous l'utilisez pour vous, à titre personnel, vous pouvez toujours continuer à l'utiliser gratuitement. Et donc, Docker Desktop, ce que ça amène, c'est le fait de ne pas devoir se configurer une VM, de ne pas avoir refaire son Docker machine en CLI et tout ça. Ça rajoute quelques customisation sympathique. C'est un outil qui est bon an mal an bien pour les newcomers entre guillemets sur Docker parce que c'est plutôt bien fait. Après c'est
très
plutôt
bien fait.
Je pense ouais c'était pas
ça va beaucoup plus loin que j'ai lancé un Vagrant à l'arrache pour faire mon Docker.
Enfin, et c'est surtout très adapté à la plateforme en plus parce que sur Windows et Mac les implémentations sont radicalement différentes en termes de gestion du réseau, de la virtualisation, des storage, des volumes, tout ça. Bah, c'est vraiment pas mal fait, ça permet même de lancer des clusters Kubernetes en local. Enfin, ils ont rajouté plein de fonctionnalités. Après, est-ce que c'est une bonne idée de le faire systématiquement? Mais en tout cas, pour les gens qui en ont besoin, je trouve que c'est vraiment utile. Même pour jouer avec, c'est vraiment bien. Donc, c'est des bons outils. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient jamais sur Linux. Mais...
Sur Windows, ça utilise WSL, du coup, pour lancer les machines maintenant, quoi. Enfin, ça utilise WSL.
Ils ont une compatibilité WSL, mais je crois que non, au départ, ça n'utilise pas WSL. Ouais, ça utilise des couches de
en fait,
virtualisation.
En fait, ils sont plus en compète avec WSL 2, à ma connaissance.
Mais je crois que...
Moi, je me semble que non. Bah, maintenant, en tout cas, ils utilisent plus WSL. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu ça d'un pote qui travaille sur Windows et il me disait, bah, maintenant, ça utilise WSL, en tout cas, sur sa machine, je sais pas.
Donc, après, si tu peux utiliser maintenant WSL 2 pour lancer des conteneurs.
Backend, en fait. En fait, t'as un des backends.
D'accord,
et il faut que tu l'actives dans Docker, machin truc. Je l'ai fait l'autre jour.
Okay.
Oui, parce que du coup, sur ma Linux, dans mon Windows 10 professionnel virtualisé, j'ai été éclaté. Enfin, bref, ça. Voilà.
Des boîtes.
C'est bien, ouais.
Je voulais voir le truc,
Mais après, bon, l'outil est bien. Alors, il y a plein de gens là qui ont mis plein de... Voilà, ça a été la réaction. Alors, il y a une espèce d'analogie qui a été faite avec le cas d'Elastic et problème d'open source. J'ai vraiment pas vu le rapport, moi, pour le coup, parce qu'on n'a vraiment aucun rapport. Je pense, enfin, de mon point de vue, je pense que Docker, ça fait longtemps qu'ils auraient dû avoir un client de ce type payant d'une certaine manière, ou même avoir une somme modique, vous faire payer 5-10 euros pour le client, même pour des utilisateurs lambda, parce que, par exemple, sur Mac, c'est assez fréquent qu'on se prenne une licence de Pixelmator ou d'un outil comme ça qui est pratique. Je trouve que ça aurait une bonne valeur ajoutée. Et c'est après, à un moment donné, c'est normal aussi qu'ils aient besoin de rentabiliser le truc, quoi, pour le coup. Et c'est un outil de qualité, quoi. C'est pas juste un truc bidon où ils disent, tiens, on va te mettre un droit d'usage, quoi. C'est un outil qui a une valeur ajoutée par rapport à la CLI pure, quoi. Donc c'est vraiment pas mal.
Tu l'as déjà utilisé, ça,
pour mettre un peu d'équilibre sur le truc, il y a quand même Podman qui existe aussi, et qui existe notamment pour Mac. Alors pour Windows, je sais pas, peut-être pas avec WSL, mais Podman maintenant apparemment fonctionne aussi sous Windows et permet de lancer des conteneurs en ligne de commande.
Moi, je l'ai utilisé un petit peu avant de quitter ma boîte précédente, j'ai eu l'occasion de le mettre en place parce qu'on était encore très anciens, mais on a commencé à utiliser effectivement Docker. Dans mon ancienne boîte un petit peu avant que je parte, donc j'ai eu l'occasion de le tester à ce moment-là. Mais du coup, là, le fait que la version desktop n'est plus gratuite pour les grands comptes, est-ce qu'ils améliorent un peu les fonctionnalités pour les grands comptes, ou c'est le même
Alors, il semblerait que ça va avec les licences. Maintenant, t'as aussi il y avait le move qu'ils avaient fait de rendre Docker Hub plus complètement gratuit. Et du coup, avec ta licence, tu as du coup accès à des pushes dans Docker Hub, à des fonctionnalités liées à Docker Hub, des intégrations de sécurité supplémentaires, des possibilités d'intégration avec des clusters Kubernetes ou autre chose comme ça. Enfin voilà. Donc c'est plus la partie intégration avec des services tiers qui n'était déjà pas gratuit, qui du coup est built-in.
Ok.
Ouais, en fait, non, c'est plutôt, ils ont vraiment mis le hub dans l'inscription, enfin, quand tu regardes les plans. Le truc que je trouve un peu dommage dans cette opération-là, c'est que, en fait, le grand compte moyen, il a pas tant que ça envie d'utiliser le Docker Hub. Tu vois, en général, il a une espèce de bidule à base d'Arbor ou ce genre de truc en interne. Et, je suis pas sûr de l'adéquation entre les deux offres à fond. Faudrait peut-être fournir une version du Docker Hub au staff chez lui ou je sais pas quoi, mais franchement, cette histoire-là, c'est j'aime pas les boîtes qui lancent du full gratuit, foutent le bordel sur le marché et des années plus tard te rappellent en disant ah maintenant faut payer. Et en même temps, je suis parfaitement d'accord sur le fait de dire qu'il faut payer le boulot de Docker, mais j'aurais apprécié qu'ils fassent payer.
Ils auraient dû le faire au départ, ouais.
Ça me gonfle, ces boîtes VC funded qui sont genre, allez, on rase gratis, tu vois. Et puis une fois qu'on a loqué les gens, qu'on a foutu le bordel sur le marché, que c'est l'apocalypse, au fait, faudra passer à la caisse, quoi. Et Oracle avait un peu essayé de faire ce coup-là avec le JDK à un moment. Ça arrive hyper souvent dans l'écosystème. Enfin, tu vois, c'est comme si demain GitHub disait, au fait, il y aura plus de repository gratuit sur GitHub. Je leur dire, les gars, vous avez foutu le bordel sur le marché, Enfin, essayez d'être un peu raisonnable dans vos demandes, je trouve. Enfin, c'est mon avis très personnel sur le sujet. Mais du coup, oui, il n'y a pas de bière gratuite ad vitam aeternam, les gens, en fait. Ça n'existe pas.
Mais en parlant de, il n'y a pas de bière gratuite, Nitan Eternam, parlons de
confluence. Bah, en vrai, c'est... non, mais en fait, enfin, juste, il y a peut-être des points. Si vous avez jamais testé
la transition, Desktop, c'est...
ouais, mais c'est un super soft. Ils ont fait un super boulot. C'est normal de payer pour ce boulot-là.
Ouais, complètement.
Et en fait, globalement, les Linuxiens s'en foutent. Ils n'en ont pas besoin. C'est un vrai truc pour gens qui bossent sous Mac et sous Windows. Et du coup, dans des boîtes qui auraient vachement streamliné les process Docker, tu vois, ça a vachement de sens.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le côté les Linuxiens n'en ont pas besoin. Je pense qu'il y a un déficit d'outils UI côté Linux pour gérer ce genre de trucs. Je dis pas qu'il le faut absolument ou qu'il faut absolument celui-là, mais tu as une tranche de... Le fait qu'il y a plein de gens qui n'utilisent pas Linux parce qu'il manque de la gestion UI et de ce genre de choses, en fait, si tu veux. Il manque un peu une alternative à ça. Moi, je suis un très grand utilisateur de la ligne de commande, donc j'en ai rien à faire, mais je comprends tout à fait le besoin.
Non, enfin moi aussi, tu vois, mais parfois, enfin c'est pas souvent que je lance des Docker ou que je vais faire du Docker exec ou autre, mais ça m'arrive, ouais, à chaque fois de demander, pas quand je fais un Docker run, punaise, c'est quoi les options déjà pour que ce soit genre en background ou que j'attache tel ou tel petit UI. Alors que peut-être qu'avec un soft de UI, tu vois, au final, je cliquerais et ça serait plus simple parce que moi, je m'en sers pas tous les jours, tu vois.
Mais... Je te dirais même un truc même encore plus basique, c'est qu'en tant qu'utilisateur, par exemple, de Docker, alors c'est vrai que maintenant que tu peux le faire un peu dans ta home, ça va, mais le fait de devoir avoir accès au démon, de devoir en fait utiliser le démon de ton host pour lancer Docker, ce que font la plupart des gens finalement, au lieu de démarrer une VM et être dedans, ce qui finalement te met un endroit d'isolation où tu lances tes conteneurs qui n'a rien à voir avec ta home et tes affaires à toi, tu vois. Et finalement, quand tu es sous Linux, bah, tu prends ce raccourci là, mais tu mets pas tes trucs dans quelque chose d'isolé à part. Alors que par défaut, sur Mac et sur Windows, finalement, tout se passe dans une VM à part,
ouais,
et pas dans ton host.
C'est vrai.
Ça serait intéressant. Alors c'est faisable, hein, quand tu veux le faire, tu y arrives sans problème. Mais ce n'est pas le comportement par défaut et ce n'est pas facilité pour les newcomers, pour les nouveaux arrivants, pardon.
Et c'est vrai.
Bah après, est-ce que l'expert Linuxien, tu vois, il n'a pas son approche un peu, on va tout faire dans systemd en faisant une slice pour les conteneurs Docker.
Ah, là, tu parles d'expert, on est d'accord, complètement. Et puis, merde, in fine, les conteneurs vont probablement tourner sur un Linux de toute manière, donc...
Moi, je comprends qu'ils ne se soient pas donné le mal, parce qu'en vrai, ils se donnent vraiment du mal dans Docker Desktop. Ils se sont vraiment donné énormément de mal pour l'intégration proche. Enfin, t'as quand même un autre système qui est dans une VM, qui est bien bricolé, pour pas avoir ce problème de gestion du disque, du réseau, du machin. Enfin, c'est assez bien propre ce qu'ils font, que ce soit sous Mac ou sur Windows. Enfin, l'expérience est plutôt bonne. Le boulot à faire pour que ça marche sous Linux est dur. Mais alors, le boulot à faire pour que ça marche sous Linux, quelle que soit la putain de distrib que tu utilises,
c'est le problème de tous les clients.
Le Debian, l'Enducu, Saras, tu vois.
Mais non, stop, mais... non, pas que Debian, ça suffit.
Non, mais regarde ce qu'ils font dans Docker Desktop, va le coller sous Debian 9.
Bah, tu le colleras pas, mais pour le coup, tu pourras le mettre dans une 11 sans trop de soucis. C'est groupe V2, ça monte. Tu vois, si tu te dis, ouais, à un moment donné, tu parles
du principe... Oui, tu peux le mettre dans une 11 aujourd'hui, tu le mettras pas dans une 11 l'an prochain, tu vois.
Ouais. Non, mais après, si le truc fournit sa propre VM, comme tu disais, The Pag, genre, où il bootera tout dedans, enfin, si c'est bien ce que j'ai compris tout
à l'heure... En fait, si tu faisais un client qui, derrière, tape dans du KVM, globalement, ouais, et voilà, lance une VM derrière les coulisses et te fait la tuyauterie là-dessus, prépare tes volumes et tout ça, ça serait un gain de temps. Tu peux le faire toi-même, sans problème. Mais ça serait pas dégueulasse. Maintenant, ouais, encore une fois, je dis pas que c'est une panacée.
Après, on ramène une VM dans du conteneur.
Ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement portable sur pas mal de distros récentes. Après, le but, c'est pas forcément de supporter tout. Mais après, le problème, ça va être plus la couche. Quelle couche client utiliser pour pouvoir l'utiliser sur tous les, les desktops Linux sans que ce soit de l'électron, si possible.
Et puis en plus, t'as déjà des trucs qui existent un peu. En fait, t'as, enfin, en UI, t'as tout l'écosystème autour de Machine CTL, tu vois, et t'as Genomebox et compagnie. Et il me semble que dans Genomebox, tu peux regarder tes profils Docker, ou en tout cas qu'il y a des gens qui bossent sur un plugin là-dessus.
Alors ouais, il y a c'est pas mal, je trouve d'ailleurs ce que Genomebox fait de ce point de vue-là. mais c'est il manque toujours des petits bouts de ficelle par-ci par-là, quoi. Mais ça peut, c'est faisable, en effet, c'est une des directions possibles. Et pour certaines personnes, c'est utile. Il y a des personnes à qui Genomebox va très bien, et puis la plupart des autres gens vont utiliser la ligne de commande pour lancer leur VM, parce que c'est trop surface, quoi.
Ouais, mais tu vois, Genomebox, par exemple, il a une approche hyper propre, je trouve, de la façon dont il bosse dans le système. Enfin, tu vois, c'est hyper propre, Genomebox, en fait. Enfin, tu vois, il se comporte vraiment comme une UI, c'est tout, et après, il lance ses process, et il cause avec SystemD pour ça, c'est assez... Enfin,
avec un beau graphe de process. D'ailleurs, en parlant de graphe...
Ah, pas mal. Enfin, il l'a trouvé, celle-là. Hein.
Ouais. Putain, je galère depuis celle que j'ai loupée tout à l'heure. En parlant de graphe, donc il y a une vulnérabilité liée à du traversal de graphe d'objets. Si tu veux en parler, Arnaud.
Exactement. Alors, une vulnérabilité dans Atlassian Confluence, qui est un outil majoritairement de documentation, de wiki, un peu tout ça, qui est pas mal utilisé par beaucoup d'entreprises. Et alors, je ne l'avais pas vu passer, mais elle est sortie la semaine dernière, et globalement, elle est assez critique, même, enfin, très critique, hein, puisque son score de vulnérabilité est à 9,8 sur 10, ce qui est un bon score, honnêtement. Et globalement, en fait, ça vous permet de très facilement prendre contrôle de n'importe quelle instance Confluence, que vous soyez authentifié ou non, du moment qu'elle est exposée sur Internet ou que vous y avez accès, quoi. Donc, c'est... Enfin voilà, ça se pose ici. Apparemment, la vulnérabilité en effet réside dans ce qu'on appelle l'Object Graph Navigation Language, qui est un langage, qui est un langage de scripting a priori qui interagit avec du code Java. Ce que j'ai compris, qui permet de get et set des propriétés de différents objets exposés en Java. Mais a priori, en fait, vous avez la possibilité de directement fournir votre propre script ou en tout cas, une partie pour modifier vous-même ou manipuler en tout cas ses propriétés. Donc, mettez à jour, évidemment. Peut-être que vous avez déjà eu la notification, parce que j'imagine qu'Atlassian a envoyé une communication un peu globale. Vous avez pas mal de différentes branches du produit qui ont été patchées. Donc, des mises à jour ont été réalisées le 25 août. Là. Et si jamais vous ne pouvez pas mettre à jour, vous pouvez également... lancer un script qui fournisse un script bash à peu près de 300 lignes qui patche en fait directement les fichiers sur la machine. Et après, j'imagine qu'il faut redémarrer le Confluence, mais ça, c'est voilà. Si vraiment vous pouvez pas patcher en mode mise à jour complète ou même mise à jour mineure, en fait,
ce qui peut parfois être le cas pour des problèmes de compatibilité de plugin d'expérience.
Alors exactement. Après, sur de la mineure, voilà. Mais le truc, en fait, non, c'est qu'il y a aussi, je crois, des versions qui sont plus maintenues qui ont été impactées. Donc, ça, c'est un peu fatigant.
Mais globalement, moi, ça me rappelle beaucoup les problèmes qu'il y avait eu à l'époque sur Struts 2 et tout ça. On en parlait tout à l'heure sur il y a Xworks et compagnie où tu avais, pareil, des traversales de graphes d'objets qui étaient faisables avec des espèces de wildcards que tu pouvais passer. Donc, du coup, dès que tu ouvrais la porte vers ça dans ta UI de ton appli, quelqu'un pouvait traverser tout le graphe d'objets en mémoire. Donc, c'était open bar.
Ouais, ça fait mal, quoi.
Et donc là, c'est dans les templates Velocity qui sont pas mal utilisés dans Confluence. C'est ça que patch, en fait, leur zip, là, leur
ouais.
Ils patchent les templates Velocity et ils recommandent de désactiver le sign-up jusqu'à ce que vous ayez fait un vrai upgrade. Et la vraie solution, alors, c'est surtout de faire un vrai upgrade, quoi.
Alors,
pas
justement,
seulement le sign-up, hein, il faut faire ça et le script de patch.
Il y a eu un gros quiproquo. Ils ont un peu merdé, on va dire.
Communiqué trop vite.
Dans le sens où, tout d'abord, ils ont indiqué que si vous désactivez en effet le sign-up public, en fait, parce que vous avez une option dans Confluence où vous pouvez autoriser n'importe quel utilisateur à se créer un compte. Là, du coup, en effet, au tout début, la faille, en fait, était identifiée juste pour l'utilisateur connecté. Et donc, si votre instance était ouverte au public, n'importe quelle personne qui fait pas partie de votre Confluence, mais qui peut quand même s'inscrire au final, a accès à la faille. Alors que quelques jours après ou quelques heures, je sais plus, c'est dans le descriptif de l'issue Confluence, ils reviennent sur leur position en disant il y a d'autres endpoints qui sont également vulnérables et qui eux sont accessibles à n'importe quel utilisateur, ou même non authentifié justement. Donc il faut mettre à jour le patch fourni suffit, mais c'est pas juste désactiver l'option de sign up qu'il faut faire, quoi. Et donc je sais pas du coup s'ils ont envoyé un mail suite à ça ou pas à tous leurs clients. Ou en général, j'ai l'impression qu'ils le font, mais
En général, mais, comme beaucoup, alors ça peut arriver, mais beaucoup, comme beaucoup, ils donnent une base de suivi qui fait partie du contrat où tu peux aller consulter. Et...
Ouais, c'est possible. Mais et bon, en fait, le truc qui est très chiant, c'est que bah, comme ils fournissent un script bash de 300 lignes, donc ce qui est quand même pas quelque chose de très compliqué à comprendre, enfin, qu'est-ce qu'ils corrigent, bah, il est également en fait très facile de pouvoir le reproduire et de comprendre enfin, c'est quoi la faille en fait pour les versions pas patchées. Et du coup, bah, aujourd'hui, il y a des... il y a des exploits en fait qui tournent et qui sont
ils sont sans doute déjà tournés
déjà impactés moment. En fait bah ouais
sans aucun doute
donc,
ouais.
Donc voilà bah, mettez à jour très rapidement quoi.
Ouais pas hésiter ouais.
Non mais là tu et vois c'était la... ça c'était à peine une semaine après le release du patch c'est quand même assez rapide tout de même tu vois
ouais bah là il y avait une grosse urgence parce que c'est l'intégralité puis c'est ça remonte très très loin en fait c'est une faille qui est très très loin dans les versions donc si vous êtes dans des versions avant les versions supportées
genre la 6, je crois.
Jetez un coup d'œil à ce qu'il faut patcher manuellement, mais surtout mettez-vous à jour vers du plus récent ou passez à autre chose parce que vous êtes dans un. Vous êtes très critiquement impacté. Quoi.
Vous utilisez quels outils, vous, chez Cosa Vostra ? C'est quoi les outils qu'on la patche chez vous en ce moment ?
Nous, tu sais, on est une agence, on bosse beaucoup avec des groupes médias, donc les outils qu'on utilise sont des outils assez anciens, assez classiques, assez enfin tu vois, on fait beaucoup de WordPress. Donc on est quand même sur des technos un peu on va dire éculés, assez basiques en termes de complexité d'architecture, on va dire. Donc on est WordPress reste un des outils les plus utilisés aujourd'hui quoi. En mode headless mais ça reste
en mode headless. Tu fais du WordPress en mode headless.
Ouais.
Ok, c'est-à-dire ? Enfin, moi, je connais pas entièrement...
C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises... WordPress, c'est très connu par les journalistes. Donc, ils ont un back-office qui fonctionne vachement bien, qui est hyper complet. Les journalistes connaissent bien. Après, la génération de HTML chez WordPress, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Et donc, en fait, tu utilises WordPress que comme un back-office et un gestionnaire de base de données, en fait, un gestionnaire de contenu. Et toute la partie, après, ouais, okay. Interface, c'est géré... par tes différentes API qui vont soit faire du React beaucoup pour la partie web et après tu parles des applications natives sur les applications mobiles donc tu t'en sers juste en serveur d'API quoi.
Ouais, donc il est vraiment là en pur CMS mais partie gestion quoi.
Voilà.
Pour être transparent notre futur site web est en WordPress hein, il n'y a rien de méchant à dire sur WordPress, ça fait très bien son boulot de CMS.
Là, ça fait très bien son boulot ça, c'est...
yep.
Et en gros, pour communiquer entre vous, parce que j'étais un peu là-dessus en regardant ces news sur Confluence, et je t'ai pas senti... j'avais pas l'impression que tu utilisais Confluence quand tu m'en parlais.
Non, pas du tout, effectivement.
Nous non plus, mais du coup, c'est quoi, vous, vos outils de synchronisation ?
Pour communiquer entre nous, tu veux dire ?
Ouais.
Encore une petite boîte, on utilise beaucoup Slack, le mail... On est en train de chercher des outils pour garder un peu plus de traces de ce qu'on fait entre nous, mais pour le moment on est encore sur du chat quoi.
Après c'est un créneau aussi assez différent parce que Confluence c'est pas tant un outil de communication qu'un outil de knowledge base ou de choses comme ça. Mmh. En général ça vient en complément d'un outil de communication. Même chez Atlassian, Confluence, ils ont plutôt HipChat ou ils avaient HipChat.
Ouais, non, je trouve,
comment ça s'appelle C'était Stripe qu'ils avaient lancé l'année dernière. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais voilà, qui était une sorte de Slack-like. Et Jira, après, c'est du issue tracking, tout simplement.
Ouais, je sais. Après, il y a des gens comme ils passent leur vie dans Jira au final.
C'est ça. Mais il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de channel.
Mais oui, c'était bien Atlassian qui avait racheté HipChat.
Ah ouais.
Il y avait des trucs bien dans HipChat. Je pense que 2000.
Et donc on a encore un autre lien. Il y a un peu un problème de traversal, mais un peu différent, qui est lié à des problèmes, si j'ai bien compris, de Jupyter Notebook, des trucs comme ça. Plutôt d'une feature qui a été rajoutée. Pour permettre de visualiser les données dans des Jupyter Notebook sur Cosmos DB, qui est donc la DB multimodèle qui existe. Bon, je crois qu'elle a été évoquée dans la dernière itération du podcast. qui est chez Azure, chez Microsoft Azure. Tu veux en parler, Arnaud?
Alors j'avoue, moi j'avais mis le lien parce que j'avais vu passer le truc, mais j'avoue, je sais pas exactement ce qu'est Cosmos DB, puis comme j'ai pas eu le temps d'écouter le dernier podcast, forcément.
Bah, quand tu fais un diff en fait de toutes les, tu sais, les bases NoSQL, en fait, ouais. Cosmos DB chez Azure, elle rentre dans presque toutes les cases. C'est une base graph, une base document, une base machin, parce qu'en fait, elle est.
C'est une base multimodale en fait.
Ouais.
C'est ça. Un peu comme Orient, tu vois.
Ouais. Ok, ouais, donc elle est distribuée, etc.
Ouais. Bon, en fait, à la base, c'est un key value distribué, tu vois, et avec un modèle d'exécution qui leur permet après de s'être refait, si tu veux, et un modèle d'intégration qui leur permet d'exécuter différents modèles dessus, quoi.
Ça. Bah, du coup, en effet, Microsoft a été mis au courant, ou en tout cas, ils ont découvert qu'il y avait un problème en fait dans leur dans cette Cosmos DB justement, qui exposait les bases de données, parce qu'a priori dans cette grosse Cosmos DB, il y avait toutes les bases de données de leurs clients en fait, de ce que j'en comprends de l'archi.
C'est une grosse base multi-tenant en fait.
Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, a priori, n'importe qui pouvait aller lire n'importe quelle base de données sur le cluster. Donc, vous pouviez aller voir les bases de données de grosses entreprises. Je crois qu'ils citent comme Coca-Cola, Citrix, Mercedes-Benz.
Mais je crois que c'est pas aussi direct, mais par contre, c'est presque plus risqué. C'est qu'en fait, ça donnait accès aux clés primaires des gens.
Oui, c'est ça. Ce
qui te donnait ensuite accès à. Et c'est ce pas d'un coup que tu voyais les bases des autres, mais quand même.
Oui, mais non, bien sûr, mais ce qu'ils disent dans l'article, oui, ils disent que n'importe quel utilisateur à distance pouvait prendre le contrôle des bases de données des utilisateurs en leur donnant, en se donnant des privilèges full admin, quoi.
C'est ça.
Sans autorisation supplémentaire que quelqu'un doit valider ou quoi, quoi. Donc, bon, il faut quand même dire, globalement, tu peux aller voir à peu près tout le monde. C'est ça. Et donc Microsoft a été donc mis au courant. Ils décrivent un peu pourquoi c'est arrivé. Donc en effet, ça part apparemment d'un Jupyter Note, enfin d'une feature Jupyter Notebook qui est activée par défaut et donc du coup qui permet en fait aux utilisateurs de visualiser la donnée de leur base de données. Et donc du coup, ils ont envoyé en fait un mail à pas mal de tous leurs clients en fait pour leur indiquer mettez à jour vos clés d'accès, etc. Parce que je sais pas si elles ont été révoquées automatiquement. Il me semble que j'avais vu ça.
En tout cas,
non, même pas.
Non.
Sinon, tu as pété 2000 trucs. Quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et le conseil, si vous en utilisez, c'est justement de régénérer et de reconfigurer ces clés partout où vous pouvez, parce que c'est nécessaire. Parce que ça a été patché derrière, mais du coup, les clés ont probablement, potentiellement, sont parties dans la nature. Quoi.
Ouais. Et puis, le côté un peu drôle, c'est que dans les applications du Health Data Hub, où, tu sais, on nous a expliqué qu'on pouvait pas gérer les données de santé des Français parce qu'on était trop nuls, nous autres Français, pour gérer ça, et que Microsoft était bien plus compétent. Bah, le Health Data Hub utilise massivement Cosmos DB. Et des Jupyter.
Voilà.
Cosmos et Jupyter dans l'espace.
J'ai fait mon troll. Je suis content.
Bon, après,
la première fois de cet épisode.
À la différence près de Confluence, où là, par exemple, Confluence, il y avait déjà des exploits, en effet, qui tournaient et qui étaient déjà utilisés contre des instances live. Là, pour le coup, Microsoft a indiqué n'avoir connaissance d'aucune utilisation frauduleuse de ce problème de sécurité. Donc, voilà.
Ouais, enfin, vu que l'utilisation frauduleuse n'est pas détectable, vu la modèle de la faille, voilà, quoi.
Ils n'en ont pas connaissance. Ouais.
C'est ça, ils n'en ont pas connaissance.
En continuant sur Microsoft pour le coup, un des aspects de la sécurité, on parlait tout à l'heure de WireGuard, et donc il y a une feature intéressante, mais je crois qu'on l'avait légèrement évoqué précédemment dans un épisode kernel, c'est qu'il y a un portage de WireGuard dans le kernel Windows, donc, quelque chose qui va s'appeler WireGuard NT. Et c'est pas inintéressant parce que je pense que justement quand on essaye de faire du WireGuard avec des clients, quand je dis les clients des tiers, c'est quand même intéressant que ce soit de plus en plus répandu. Et le fait que ce soit aussi disponible dans le kernel Windows au fur et à mesure va peut-être sortir de IPsec et autres joyeusetés.
Alors après, tu pouvais déjà faire du WireGuard sur Windows, ouais, avec en mode. Voilà, en mode userland, du coup, ouais. Moi j'ai déjà utilisé par exemple, ça se passe très bien. Il y a même des logs qui sont limite parfois plus parlant que sur Linux. J'ai trouvé ça assez fou. Alors peut-être que sur Linux, j'ai jamais vu les logs, mais au moins il y avait des logs, c'était pas mal. Et après, c'était écrit en Go, mais ça faisait vraiment, enfin, ça faisait le taf que je n'avais à faire. Et c'est cool en effet de le voir arriver dans le kernel. Donc, si vous êtes un peu avant-gardiste, vous avez moyen de télécharger directement le driver qu'ils fournissent en fait, parce que c'est un driver installé forcément. Et donc il y a potentiellement des bugs, il peut y avoir des blue screen of death, si c'est encore ça, comme ça qu'on appelle ça sur Windows, mais bon bah voilà, c'est du développement, mais au moins c'est fun à tester, je pense.
Ça s'active par registre évidemment, puisqu'on est sous Windows.
Ouais, je sais pas.
C'est ce qui est. Je ne l'ai pas testé non plus, mais c'est ce qui est marqué dans l'article. On va tester ça.
Donc, du coup, vous pourrez maintenant mettre des clients Windows dans votre réseau et ce sera beaucoup plus rapide a priori, parce que l'intérêt en fait d'avoir un driver directement dans le système, c'est que bah, vous évitiez trop de context switch entre le kernel et le user land dans la partie réception des données et des chiffrements. Parce que quand vous avez votre VPN en fait en mode user land comme c'était le cas avec le logiciel en Go avant, bah, le kernel en fait reçoit les paquets de données, il les transmet en user land, donc un context switch, au programme en Go qui déchiffre tout, qui ensuite refile ça peut-être au kernel pour envoyer la réponse, etc. Enfin, ça prend beaucoup de temps CPU. Et du coup, l'avoir directement dans le kernel vous permet d'avoir des meilleurs perfs et bon, peut-être une meilleure sécurité à la fin, parce que là, ça utilisera du coup les API Windows dédiés à ça, donc ce sera cool.
Et puis par ailleurs, en termes de shipping aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit lié au kernel, ça pave peut-être le chemin pour que ce soit par défaut sur tous les Windows serveurs in fine. Ce qui fait que...
Alors après, ouais.
C'est là que ça peut être intéressant. Windows l'intègre en natif...
C'est pas totalement exclu, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qu'à mon avis, ils vont progressivement mettre peut-être aussi dans Azure pour leur déploiement de serveurs. Je pense que c'est pas anodin que ça commence à s'intégrer. Je peux me tromper complètement.
Là, c'est la team WireGuard qui fait tout le boulot. Il n'y a personne de chez Microsoft dans cette histoire.
Ouais, après, au final, WireGuard, pareil pour Linux, ça a commencé de la part quasiment d'une seule personne, rejoint et autres. Donc, non, c'est pas le même modèle, évidemment. D'un côté, t'as une boîte payante et de l'autre, t'as une. Enfin, qui
est un peu payante et de l'autre. Et après, il y a quand même une grande entreprise dans le fait qu'il y a énormément de soft d'entreprise qui a encore tous les trucs de configuration, de machin, de toutes les autres alternatives de VPN existantes. Bon, il va y avoir une résistance de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est pas inintéressant que ça existe et que ça descende à un niveau plus bas, quoi.
Après, Quentin, c'est pas la première fois que Windows rachète un truc et qu'il laisse les devs d'origine faire tout le portage et qu'ils ne se mêlent pas du truc. Enfin, ça avait été le cas pour Skype, notamment. Ils ont laissé les mecs tout refaire et s'adapter à leur environnement. En mode, vous vous démerdez, maintenant vous êtes à nous, mais vous vous démerdez, quoi.
Oui, mais là, c'est un projet open source, quoi. Il n'y a pas à acheter, quoi.
Là, ils n'ont rien à racheter, a priori.
Non, et du coup, est-ce que vous savez si c'est disponible sur Mac ou WireGuard, en fait, ou pas?
Je ne sais pas.
Pas en natif, avec un client userland, quoi.
Ok.
Mais en client userland, ça marche hyper bien. Je l'ai depuis des années, je m'en sers tout le temps. Et ça marche hyper bien en client userland. Mais t'as pas de kernel extension à ma connaissance. Après, j'ai peut-être une connerie, hein, mais à ma connaissance, y a pas de kernel extension. Yet. Il faudrait quelqu'un qui a envie de se taper.
On va faire en BSD. Faut voir si ça existe dans un des autres BSD. Mais là, j'ai pas l'info.
Je parlais, j'étais mute, mais oui, sur BSD, il y a déjà un portage qui est en cours ou qui a déjà été fait en fait, et il est déjà potentiellement inclus dans, alors, je sais pas, dans les releases BSD, enfin je sais pas comment ça marche, mais voilà, ouais.
Yep. Et ben en fait, il y a une version OpenBSD, FreeBSD, je sais pas.
Et toi Bruno, t'en as déjà entendu parler de WireGuard ou de...
Pas du tout.
Spot, ta cam?
Non.
Non.
Okay. C'est peut-être l'occasion de réexpliquer ce que WireGuard en fait.
Alors, la fête tout à l'heure, on peut le faire une deuxième fois s'il y en a qui nous rejoignent, oui, en effet.
Non.
Il y a les timecodes YouTube, on sait pas. Hein.
Sans transition, Arnaud. Je vais faire mon premier sans transition.
Allez, voilà,
là, je sais pas quoi dire.
En parlant de kernel Linux.
Oui, en effet.
Alors, c'est un
on
lien.
On parle de kernel Windows, donc bon.
Oui, exactement. En parlant de kernel tout court, hein. Ouais, c'est un lien alors qui date un peu, enfin, de début de l'année, je crois, avril. Il me semble pas qu'on en ait parlé ici. En tout cas, il a repopé sur notre Slack, donc j'ai envie de dire que non. Mais c'est un article de WN.net qui est un site de news, on va dire, plus ou moins, enfin très orienté kernel quand même, kernel Linux, et qui explique en fait qu'une des features qui était intéressante ces dernières années, qui s'appelle SO Reusport, que je vais expliquer juste après, a en fait quelques problèmes dans sa conception et dans sa gestion de ce qu'elle gère en fait. Faut que j'explique quoi maintenant. Mais globalement, quand vous avez en fait un serveur web et que vous voulez faire en sorte qu'il écoute, enfin que plusieurs des processus de serveur web, imaginons, écoutent sur le même port, bah vous devez donner une option particulière en fait à votre système pour lui dire bah vas-y autorise en fait ce programme-là à écouter sur plusieurs ports, parce que de base vous ne pouvez pas avoir deux programmes qui écoutent sur le même port, ou en tout cas deux process de ce même programme ou de thread ou n'importe. Et du coup, est arrivée l'option SO Reusport qui permet en fait de dire bon bah ce programme-là, il peut écouter sur plusieurs process sur le même port, et ce qui permet en fait bah du coup à plusieurs process de gérer les différentes connexions qui arrivent de manière bah a priori plus scalable en fait, parce que du coup vous pouvez avoir 10 process, imaginons, qui gèrent toutes vos connexions plutôt qu'un seul et qui peut galérer un peu quoi. Mais a priori, il est arrivé en fait aux oreilles de certaines personnes que cette option parfois pose problème. C'est-à-dire qu'entre le moment où une connexion arrive sur votre machine, que votre kernel du coup l'accepte, et que ensuite entre le moment où le kernel la renvoie à l'application finale, en fait, une fois que l'application finale fait un accept, si ça vous parle, bah, il peut qu'à ce moment-là, quand les connexions en fait sont dans la queue justement d'attente. Et que le programme que vous avez qui écoute, il a un de ses threads qui redémarre ou qui se quitte, mais en fait toutes les connexions qui sont dans cette queue vont être annulées, enfin arrêtées, elles vont être fermées du coup. Ce qui, bah du coup, imaginons, vous êtes là en train d'essayer de contacter un site internet, bah vous pouvez vous prendre une erreur en mode bon bah le site distant a fermé la connexion de manière impromptue, et du coup bah vous êtes en tant qu'utilisateur, bah, un peu lésé, parce que bah, vous n'avez pas réussi à accéder au site. Quoi. Et je ne sais pas si je suis clair jusque-là, en tout cas.
On suit.
C'est bon, j'essaie de faire simple, mais ce n'est pas toujours évident. Et mais du coup, bah, y a une série de patchs en fait, qui a été proposée par une personne pour essayer un peu de corriger ça, de faire en sorte que bah, ce n'est pas parce qu'en fait, un des process se quitte que les autres ne peuvent pas prendre le relais, parce que bah, ils sont bien là, alors pourquoi pas leur filer
c'était l'intérêt de départ.
Le travail, quoi. C'était l'intérêt de départ. Et du coup, bon, bah, y a des patchs en tout cas, qui ont été soumis pour corriger ça. Parce qu'en fait, des implémentations de ce type-là, par exemple, bah, vous avez Nginx, vous avez HAProxy, par exemple, quand vous faites un reload, bon, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de nouveaux process, et ensuite, il arrête les anciens. Mais du coup, en tout cas, surtout Nginx, parce qu'HAProxy peut garder les anciens, revient un peu longtemps, mais théoriquement, les anciens, eux, gardent les connexions en cours, ils ne vont pas en prendre de nouvelles. Mais du coup, ça veut dire que quand ils vont se quitter, potentiellement, bah, certaines connexions, en tout cas, qui sont en attente, après, ça peut très bien être 5 connexions, comme 0, comme 1000, hein, ça dépend de votre trafic, évidemment, bah, seront fermées. Et donc, la side patch a été proposée, et bon, aujourd'hui, elle n'a pas eu beaucoup de commentaires, et encore, aujourd'hui, je ne sais pas, comme c'était il y a 6 mois, je n'ai pas regardé plus en détail quels étaient les autres, mais il y a en tout cas une personne qui dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de retourner à l'ancien temps, on va dire ça comme ça, entre guillemets, évidemment.
D'il y a 7 mois.
Oui, enfin même encore avant, bah, en fait, avant que ce réseau Reusport arrive, et qu'en fait vous avez un seul process qui gère justement l'acceptation, enfin l'acceptance, enfin voilà, le fait d'accepter les nouvelles connexions, et ensuite bah, lui il les redonne aux différents process, à d'autres threads en fait derrière, mais il n'est pas juste, il fait juste un passe-plat en fait,
c'est un dispatch.
C'est ça, il dispatch juste sur les autres threads, et qui eux pourront s'arrêter au gré bah, de leur vie en fait, si jamais la configuration change ou autre. Alors que bah du coup le thread qui accepte tout le temps lui ne s'arrêtera bah, a priori jamais quoi. Donc voilà, c'est moi j'ai trouvé ça intéressant parce que j'aurais pas, enfin je pensais que c'était un truc qui était réglé, mais comme souvent le réseau nous apporte son lot de surprises et que bah il y a toujours des petits trucs un peu bizarres qui traînent ou des petits bugs qui traînent à droite à gauche qui arrivent
en fait,
quelques années après.
Cette
quoi.
Question finalement ça annule un peu l'intérêt du Rio Sport quoi en fait finalement. On fait pas
fait
pas de Rio si t'as plus qu'un seul thread qui le fait finalement t'as assez peu d'intérêt.
C'est hein, ça, t'as plus besoin de Rio quoi.
Ouais.
Et là, moi, j'étais pas. J'avoue que j'ai toujours connu quasiment le SO Rayu Sport. Et récemment, je regardais un. Alors, c'était quoi? C'était Jetty avec Java, je crois. Et il y a toute une configuration qu'on peut avoir entre les TLS acceptors et les TLS handlers, un truc comme ça, pour des connexions TLS, par exemple. Et j'avais trouvé ça assez marrant, en effet, le fait qu'il y a des process qui soient dédiés à accepter les connexions et après, ils les passent à ceux qui vont, qui vont les gérer. Et ouais, on a l'impression qu'on revient un peu vers ce modèle-là, alors qu'aujourd'hui, on était plus en mode, bon, bah, on spawn X process qui, chaque fois, accepteront les connexions, quoi. Donc, je trouve ça un peu marrant. Qu'on puisse revenir en arrière sur ce genre de choses, quoi. Et que si vous avez parfois pris des.
Déconne.
Comment?
C'est parce que l'auto-magique, ça déconne souvent.
Ouais, bah ouais, c'est possible.
Parce que c'est pas magique.
Bah c'est ça, c'est pas magique. Ça peut toujours échouer et voilà quoi.
Mais
donc globalement, vous êtes, enfin, en tant que personne, il y a quand même très peu de chances que ça vous arrive ou que ça se pose de vrais problèmes. Mais aujourd'hui, comme bah, on pousse en production de plus en plus de changements, qu'on a de plus en plus de changements de configuration, etc., bah forcément, ce genre de cas peut arriver de plus en plus fréquemment quoi, également. Donc, vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont perdus à cause de ça.
Surtout, c'est embêtant si tu as des connexions de streaming ou si tu streams des vidéos, par exemple comme dans PeerTube.
Ouais, après qu'une connexion se ferme et merde à un moment, c'est logique, mais c'est juste là, c'est à la première établissement de la connexion, tu vois. Mais désolé,
c'est bien.
Transition,
ouais,
mais.
Du coup, je vais poser une question.
Tu vois, Quentin va ramener un truc au milieu, du coup, la transition sera foutue. C'est pas grave.
Non, mais en fait, une des questions pour Bruno, c'est de dire. Ça, par exemple, c'est un truc qui est assez low level. Donc, ça prouve que nous, c'est un problème qu'on a au quotidien parce qu'on doit gérer beaucoup de connexions avec beaucoup de process. Et du coup, souvent, on se pose des questions à ce niveau-là et voilà. Et toi, j'imagine que c'est pas du tout des questions que tu poses en général. C'est pas l'écosystème, savoir ce que fout l'écosystème Linux à l'intérieur de sa gestion de connexion. Je suppose que c'est pas un problème. C'est quand même des informations qui te sont utiles ou en fait, vraiment, c'est pas du tout un problème.
Alors, en général, si savoir ce qui se passe côté OS, côté serveur, c'est des choses qui sont quand même utiles en tant que dev. Ce que je vois en fait souvent plus avec l'expérience, c'est tu vois par exemple là cette histoire de Rio Sport. En fait, je me dis que ça correspond à des use cases qui sont assez peu fréquents pour la majorité des boîtes. Et en fait, pour beaucoup de devs, c'est des questions qu'on n'a pas vraiment à se poser. Tu vois ce que je veux dire, là, d'avoir une connexion qui se, un thread qui se ferme au moment où tu as trop de connexions qui sont là et que du coup tu perds des connexions. En fait, pour la majorité des boîtes, tu vas perdre en fait deux users qui sont en fait. Enfin, tu vois, c'est.
Bah, c'est un peu ridicule en termes
voilà.
de nombre.
C'est des questions qui sont. C'est un peu l'artillerie lourde pour bouger un cœur-dent, quoi.
Mm. Non, ça dépend beaucoup du design du soft, si tu veux. Si t'as des softs qui, justement, ont basé tout là-dessus en prenant plein de connexions sur un thread et en disant c'est pas grave parce que c'est comme il y a du reuse, ça va peut-être basculer sur l'autre et se baser là-dessus et finalement ça fonctionne pas. Ouais, là, je pense que tu es un peu à côté de la plaque. Mais bon, c'est vrai qu'en constatant, moi, je pensais à Nginx & Co. Et Nginx, à ma connaissance, il est en mode avec. Il a un thread qui fait l'accept et le dispatch, non? J'avais un doute là-dessus.
Ah, peut-être. Alors, peut-être que je me trompe sur ça.
Mais
j'avais vu
que. En même temps, j'ai jamais vraiment étudié ça, donc peut-être pas du tout.
Non, mais
j'avais cette impression qu'il y avait un thread principal qui passait le truc derrière.
Bah, j'avais vu dans les commentaires, justement, du site, de l'article, que justement, il y a quelqu'un qui dit en effet, ouais, ça peut impacter Nginx également.
D'accord. Alors, peut-être.
Mais après, je sais pas, je suis pas allé vérifier, c'est quelqu'un sur Internet qui dit un truc, quoi. Mais ouais, en tout cas, ça peut poser problème. Mais oui, c'est le nombre est ridicule et bah tout dépend parce qu'imaginons t'as un fort pic de trafic, ton application galère un peu à accepter au fur et à mesure, t'as peut-être avoir une queue, je sais pas, de 500, 1000 personnes. Et là, boum, tu pushes un changement de configuration pour mieux gérer peut-être ton trafic. Bon, bah, tu perds 1000 personnes qui auraient peut-être été acceptées dans 5 à 10 secondes. Bon, ils auraient quand même attendu un peu, mais au moins, ils auraient été acceptées à un moment. Alors que là, bah, ils prennent une erreur. En plus, les erreurs de browser sur ce genre de choses, c'est toujours moche, quoi. La connexion a été interrompue. En tant que néophyte, tu comprends pas toujours ce que ça veut dire.
Après, moi, je rejoins Bruno sur un point, c'est que souvent, tu auras un autre serveur qui va reprendre ça. C'est-à-dire que ça va, ton serveur, il va te dire, je réponds pas, ben, tu vas balancer sur un autre qui va prendre.
Ouais, bien sûr.
Quoi, c'est, en tout cas, si dans le scénario sur HTTP, si t'es pas sur un stream où t'interromps un flux, end-to-end, si tu veux, où à la limite, le user est vraiment linké à une machine particulière, bah, ça va juste balancer sur autre chose et puis, qui pourra sans doute traiter ta requête, enfin, dans le meilleur des cas.
Et puis, t'évoquais les erreurs de browser qui sont moches, ce qui est vrai, mais aujourd'hui, t'es de plus en plus sur des sites, en fait, qui sont en Ajax ou des trucs équivalents, et du coup, en fait, t'as pas chargé une page complète d'un coup, donc ça va pas te faire une erreur serveur. Si tu fais ça bien de ton côté, t'as un truc d'erreur qui apparaît, ou t'as un truc un petit peu long à charger, mais tu vois, en fait, t'as pas de...
C'est les WebSockets, c'est pas sûr.
T'as pas un truc c'est si moche que ça, quoi. Donc c'est...
Ouais, j'avais plus en tête, ouais, en effet, juste quand t'es la première connexion au site. Parce qu'après, c'est vrai que bon, c'est plus.
Mais tu vois, tu réduis encore la probabilité que.
Oui, tout à fait,
que ça impacte réellement.
Puis après, t'as le keep alive, etc. Oui, en effet, oui, c'est très vrai. Ouais.
Mais c'est parce que nous, quand on prend beaucoup de code dans la tronche, en fait, la petite proportionnalité, ça nous gonfle. Enfin, ça gonfle nos clients, en fait. Mais effectivement, je pense que dans ce genre de cas, en fait, c'est des sujets qui sont plus loin de toi. Je vais peut-être dire une connerie, mais si je me souviens bien, Cosa Vostra, vous étiez une boîte qui avait des bureaux dans plusieurs endroits. Il me semblait que vous aviez fait une aventure londonienne.
On est à Paris, Bordeaux, Tunis et Londres.
Et la question que je voulais te poser là-dessus, qui n'est pas du tout liée du coup à nos points, c'est... donc toi, tu fais directeur des opérations, c'est-à-dire qu'à la base, tu es développeur, mais directeur des opérations, c'est un poste qui est plus large.
Ouais.
Le moment Covid qu'on vient de vivre, ça fait 18 mois, donc on n'est pas juste dans le premier confinement où globalement on a arrêté, tout le monde est chez vous, quoi. Mais on est, tu vois, là, on est dans l'opérationnel du business. Enfin, ton opérationnel du business a changé sous la contrainte, mais il a changé. Ça se passe comment pour vous? Est-ce que ça vous met en difficulté dans des territoires? En plus, sur Londres, tu tapes en plus le Brexit dans la réalité, en plus du Covid. Est-ce que tu as un feedback à nous faire là-dessus?
Alors, moi, il y a un feedback que j'ai trouvé intéressant sur le Covid. On avait une situation particulière avec des bureaux à Paris, à Tunis et à Londres. Il y avait certains bureaux qui avaient l'impression que c'était à Paris que les choses se décidaient et que les autres, ils étaient là pour exécuter, que ce soit Londres, Bordeaux ou Tunis. T'avais cette impression de le centre et les autres. Alors que on a des équipes qui sont éclatées sur tous les bureaux. Il y a aucune équipe qui est présente sur un seul bureau. Il y a des managers sur tous les bureaux. Enfin, on était vraiment éclatés le plus possible. Et le Covid, ça permet un truc, c'est qu'en fait, bah, pendant un temps assez large, il y avait plus de vie de bureau. Tout se faisait en ligne, tout se faisait sur Slack ou en Google Meet ou en visio. Et du coup, bah, en fait, ça a resserré les rangs de tout le monde parce qu'en fait, les décisions se prenaient effectivement avec tout le monde. Et tu savais que tu faisais partie de la décision parce qu'en fait tu étais sûr qu'il n'y avait pas de discussion autour de la machine à café ou ce genre de choses. Donc tu vois, il y a eu un resserrement de ce côté-là, il y a eu un sentiment d'appartenance plus fort grâce à ça.
Et des économies de café.
Okay. Et des économies de café aussi. Et après, nous, du coup, on a confirmé, on va dire, l'usage du télétravail chez Cosa Vostra. Et donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, sur les bureaux parisiens, on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc, on est vraiment, on est dans un stade aujourd'hui où on oblige, du coup, les gens, en fait, à ne pas venir au bureau tous les jours. Quoi.
Ouais, vous avez un espèce de roulement, un truc comme ça?
Exactement.
Ouais, ok.
Et sur un modèle comme le Brexit, vous avez senti quelque chose dans son application dans la durée? Vous avez des choses qui changent pour vous ou pas du tout?
Là, on bosse pas beaucoup avec des clients en Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti s'installer à Londres parce qu'en fait, il y a un associé qui voulait partir vivre à Londres. Donc, il est parti là-bas, mais on bosse majoritairement avec des clients français pour le moment.
C'est un associé qui aimait pas bouffer, quoi. C'est un mec.
Puis il en avait marre de voir le soleil, je pense aussi, un truc comme ça. Et puis du coup, alors, c'est vrai qu'avec le Brexit, c'est encore moins facile de bosser avec des boîtes anglaises. Ça a complexifié un peu les embauches là-bas, clairement. C'est-à-dire qu'en termes de visa, quand on veut envoyer quelqu'un là-bas, c'est plus compliqué. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de... comme ce n'était pas une grosse activité avant le Brexit, ça n'a pas eu un impact fort sur nous.
Ok, bah, tant mieux du coup.
Ouais.
Clairement.
Et Tunis, avec les récentes problématiques en Algérie, ça a été un peu tendu en Algérie.
Alors en Algérie, ça a été tendu, mais c'est entre l'Algérie et le Maroc.
Ouais, c'est ça.
En Tunisie, ce qui a été tendu, en fait, c'est que les Tunisiens n'ont pas du tout apprécié la façon dont la situation, dans la crise sanitaire a été gérée par le gouvernement. Les vaccins leur coûtaient hyper cher. Les tests leur coûtaient hyper cher. Enfin, ça a été n'importe quoi.
Puis il y a une saturation de dingue des hôpitaux.
Ouais. Du coup, il y a eu un peu un soulèvement populaire. Et du coup, le président a repris a presque déclaré la loi martiale. Et en fait, les Tunisiens ont été ravis de ça. En fait, et du coup, depuis, les vaccins sont disponibles en Tunisie. Tu vois, on a galéré pour trouver des vaccins pour les équipes tunisiennes. On n'a pas réussi à en faire envoyer là-bas. Et il y a eu ce soulèvement. Et quasiment 3 semaines après, tout le monde était vacciné première dose, quoi. Okay.
Priorité, quoi.
Ok.
Mais du coup, là, il y a des équipes, tu les as pas vues depuis très longtemps, quoi. Parce que...
Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai réussi à y retourner. J'y suis retourné en juillet, ouais, c'est ça. J'ai fait un déplacement express. Il y a une fenêtre de tir où ça, c'était possible. Tu vois, il y avait plus trop de contraintes pour y aller. J'ai pris un avion, j'y suis allé, j'ai fait l'aller-retour. Du coup, j'ai pu les voir. Et genre 3 semaines après, c'était de nouveau la catastrophe.
Il y a 2-3 semaines après que les premiers touristes soient venus.
Voilà. Comme quoi.
Ouais, mais ça fait bouger des gens, même en local. Quoi.
Ok. Bon, bah, c'est bon, j'ai posé mes questions organisationnelles et j'ai foutu le bordel dans ton ordre du jour.
Oh, il n'y a pas de soucis. C'est,
faire une
c'est
transition notre sur ça.
Ouais, non, mais sans transition pour une deuxième fois, là, pour le coup, parce que là, ça va être vraiment difficile d'y revenir. Donc, t'avais un petit truc sur le stockage de PeerTube. Si tu peux expliquer ce que c'est que PeerTube.
Alors, oui, c'est un truc que j'attendais. Alors, PeerTube, c'est un YouTube décentralisé, globalement, pour la faire très courte. Donc, chacun peut gérer sa propre instance et la faire joindre au réseau de fédération. C'est développé par. Enfin, ça fait partie de Framasoft, il me semble. Mm-hmm. Qui est un collectif d'outils un peu collaboratifs et parfois décentralisés également. Enfin, c'est comme ça que je les vois. Et ouais, alors PeerTube, du coup, bah, vous pouvez uploader vos propres vidéos donc, pour faire comme sur YouTube. Et il y a quelques personnes qui étaient intéressées par avoir un support pour stocker ça dans de l'object storage. Donc par exemple, bah, du S3, du Cellar chez nous ou d'autres solutions compatibles. Et donc il y a quelqu'un qui s'est énervé, qui a fait la feature en quelques semaines et maintenant c'est disponible parce qu'avant en fait vous pouviez juste utiliser du S3 etc mais en passant par Fuse qui est une implémentation
une abstraction
ouais, voilà c'est ça qui permet en fait d'avoir un file system monté un S3 monté en tant que file system donc on avait parlé de PeerTube déjà en effet en l'épisode 27 pardon. On listait les différentes nouvelles features de la version 3. Quoi. Donc la pull request a été merge, je ne sais pas si une nouvelle version qui est sortie depuis, mais en tout cas ça marche bien sur Clever. J'en ai fait une en perso pour des vidéos que j'avais. Et ça marche bien, c'est assez simple à déployer pour le coup. C'est du JavaScript, hein, donc c'est du Node.js, donc ça se fait assez bien. Quoi. Mais voilà, petite parenthèse sur ça.
À quand le message à caractère informatique cross-posté dans le fait divers sur une instance PeerTube Clever Cloud?
Ça va être un petit projet, en effet. Il faudra qu'on fasse ça.
Ce sera un mardi. Je ne peux pas répondre mieux que ça.
Quand tu es une agence de communication, comme les Cosa Vostra, aujourd'hui, l'impact... je suppose qu'on vous demande quand même beaucoup de choses liées aux réseaux sociaux. Il y a des notions d'audience. l'impact du fait divers vu de loin, enfin vous dans ce cadre-là, c'est vous le regardez, vous vous dites bah enfin c'est sympathique, mais jamais nos clients nous demanderont ça. Enfin, comment vous voyez arriver ça, vous ?
Je suis pas sûr d'avoir compris ta question.
Bah vous entendez parler parfois de Mastodon, de Peertube, de Write As, de tous ces machins-là du fait divers ou pas du tout ? Le fait divers, c'est tous les trucs qui marchent en fédération comme ça, on les appelle tous le fait divers.
En fait, non, parce qu'en fait, les gens veulent être sur du mainstream, en fait. Donc, pour te dire, pour la majorité, la très grosse majorité des clients, pour eux, Twitch, c'est un truc alternatif. Donc, voilà, ça pose les bases en fait sur les outils que les clients peuvent vouloir tester, quoi. Donc, même aujourd'hui, quand tu proposes du TikTok à des clients, t'es en mode avant-garde, quoi. Donc, on n'est pas sur ce genre d'exploration-là pour les clients, quoi.
Et tu penses qu'il y a de l'éducation possible à faire ou que c'est mort, enfin... Tu vois un chemin pour éduquer les clients dans ces modèles-là ou...
Bah non, parce que en termes de reach, c'est compliqué. Enfin, tu vois, ce qu'on t'a expliqué, oui, il faut que tu crées une instance à chaque fois que tu veux partager tes vidéos. En termes d'accès, c'est pas suffisamment répandu. En forme d'intégration, c'est pas suffisamment répandu pour que t'as pas un reach suffisamment important, en fait.
C'est ça. Il y a un problème de seuil critique à atteindre et de personnes que tu peux atteindre avec une communication. Tu vois le souci.
Tu vois, déjà Twitch, il y a pourtant un reach qui est colossal sur Twitch. Enfin, tu as besoin de démontrer le potentiel de Twitch, mais tu es sur une audience qui est quand même qui est pas encore suffisamment courtisée par beaucoup de marques, en fait. Donc il y a pas de... sans compter que tu t'arrasses quand même des populations qui peuvent tenir Twitch pour le jeu vidéo, et je comprends pas les gens qui regardent des gens jouer des jeux vidéo.
Ça reste très marqué, ouais.
Ouais, là t'as une évangélisation, tu vois, c'est compliqué, quoi. Yep.
Ok.
En tout cas, pour amorcer une conclusion, on a encore quelques petits outils où on peut mentionner au passage. Alors, c'est vrai que on saute un peu du coq à l'âne avec des considérations plus générales. Là. Mais
ça, c'est un outil que j'avais mis en fait à la base dans Vrex, le Bandwitch. C'est une petite CLI Rust. Quoi ?
Ouais, j'ai cool, on a mis le même alors.
Cool. Ah bon ? C'est une petite CLI Rust pour changer. Et Bandwitch, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet de voir. Donc, c'est dans le terminal, mais c'est en cursive, c'est globalement bien présenté. Et ça vous permet de voir quel soft chez vous communique avec quels IP et quel nom de domaine, parce qu'il a la gentillesse de traverser les noms de domaine également, à quelle quantité de données.
Bande passante. Voilà,
en quelle bande passante. Et c'est vraiment hyper pratique. Tu lances juste ton Bandwitch. Et vraiment c'est propre et tu le vois aussi de quelle carte réseau il sert, ce qui le cas échéant peut être utile, notamment si t'es sur un serveur, tu vois, au-delà de l'avoir sur ton laptop, mais t'es en train d'administrer un serveur qui aurait par exemple une patte dans un réseau local, une patte dans un réseau public, et t'as des problèmes de discussion, c'est vraiment pas mal pour faire du web.
Tu peux réussir à lancer en tout premier sur ta machine, parce que moi à chaque fois que je rallume mon Mac, je sens qu'il synchronise 23 000 applications et j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui se passe. Tu vois, pourquoi est-ce que mes trois premières minutes sont un petit peu difficiles parfois. J'aimerais bien voir, tu vois, dans quel ordre il update les trucs, quoi.
Bah, il a peut-être tout simplement un mode record de l'ami Bandwitch. Du coup, tu pourrais le laisser en mode record. Franchement, l'outil, il est vraiment cool. Mais il m'a pas mal servi ces derniers temps.
Ouais, il a l'air sympa. Bah, ça a l'air un peu plus friendly que Ifttop, déjà. Ifttop est toujours un peu compliqué. Enfin, c'est un outil en Python, il me semble, Ifttop, qui permet justement de suivre un peu le trafic réseau sur les différentes interfaces, etc.
Qui essaie de mapper vraiment top sur des problématiques réseau. Alors que ça, c'est un outil qui s'oriente vraiment sur la bandwidth. Enfin, l'expérience utilisateur, si on peut parler d'expérience utilisateur très riche sur juste du CLI, mais elle est quand même importante. Elle est différente, quoi. C'est pas parti. Ouais. Tiens, on va faire un top qui fait autre chose.
Je vois pas de mode enregistrement. Par contre, il y a un soft qui a un mode enregistrement dont tu peux te servir pour gérer ton problème dans le cas présent. C'est tout simplement NetShark. En fait, avec Wireshark, tu vois, tu t'installes ton Wireshark, tu le mets en enregistrement, tu colles ta bécane, tu le rallumes, et en fait, il va capturer toutes tes trames, et là, tu vas pouvoir faire de l'analyse, et après, tu trouves un outil d'analyse qui va te faire ton analyse de ton enregistrement Wireshark, et tu seras bien.
Je suis en train de regarder. C'était clair.
En deuxième outil, on a Grex, qui pour le coup est un petit outil qui permet de réaliser des expressions régulières sur base d'exemples. C'est-à-dire qu'on met des exemples de la chaîne qu'on veut matcher et on peut construire des expressions régulières. Alors je pense que c'est pas mal comme outil d'apprentissage au début. Et puis aussi, quand on a vraiment des trucs à faire rapido à l'arrache pour tester, c'est pas mal.
Ah, c'est marrant ça.
Ah, attends, j'aurais rêvé de cet outil il y a 4 ans, quoi.
C'est assez chouette. Bon, là, il y a une session de regarder le GIF animé qui est sur le repos GitHub, qui n'est pas très sympa pour ceux qui nous écoutent.
Mais, il a l'air long, ouais. j'avoue, c'est marrant.
Ouais, c'est plutôt sympa comme idée. Bon, je pense qu'après, ça a toujours ses limitations dans le fait de partir de l'exemple pour faire la regex. La regex ne marchera pas tous les exemples que tu veux, mais en tout cas, tu peux prendre 5-6 exemples et puis arriver à affiner ton truc. Je pense qu'au fur et à mesure, tu arrives à comprendre un peu comment ça fonctionne.
Mais du coup,
Et surtout, tu la décomposes. Ça, il y avait quelques outils, notamment en ligne, qui te faisaient de la décomposition comme ça. Il y a des plugins d'IDE un peu lourd. Là, c'est vraiment un truc, c'est assez léger, en ligne de commande, rapide et tout. C'est plutôt chouette.
J'ai pas l'impression que tu puisses tester tes regex avec.
Après, tu peux tester ta regex, simplement tester ta regex, prends ta regex, tu la testes.
Ouais, mais j'aime bien voir les couleurs, tu vois. Moi, par exemple,
je suis sûr qu'il y en a un.
Ouais, c'est probable.
On laisse ça comme un exercice. Il y a forcément un outil regex qui fait ça.
Je dis souvent regex 101, un site, où justement tu peux. Il t'explique quel symbole fait quoi dans ta regex et peut-être où est-ce que tu peux merder.
Ouais, puis tu fais littéralement un explain de ton.
Exactement. c'est super cool, tu vois. Ouais. Et bon, après, faut charger un site, quoi.
C'est ça.
Peut-être un outil en ligne de commande, ça peut être sympa. Ok.
Yep. Je précise que le truc est aussi codé en Rust. Hein.
Ouais.
On est surpris.
Incroyablement.
Et dans
en parlant de Rust.
Ok, on peut faire le en parlant de Rust, mais j'avais un autre outil de l'épisode dont on parle rarement, mais en fait, je me suis tapé beaucoup de pires ces 15 derniers jours avec des gens dans l'équipe, et comme on parle beaucoup des équipes en distanciel, et dans les outils d'IntelliJ, donc JetBrains, IntelliJ, WebStorm, etc., tous ces outils-là qui sont des très bons outils, donc... Si vous parlez à Hubert Sablonnière de WebStorm, il vous dira combien pour coder du web. WebStorm est un excellent IDE. Et globalement, la plupart des gens dans l'équipe de chez Clever qui font du Java Scala vont bosser dans IntelliJ. Et en fait, dans leur version pro, maintenant, ils ont une nouvelle feature qu'ils appellent... Enfin, une nouvelle feature. Ça fait quelques temps qu'ils la développent, mais maintenant, elle est bien mature, qui s'appelle Code With Me. Et Code With Me, c'est une plateforme de... Enfin, c'est un outil pour faire du pair programming. La personne à qui vous envoyez le lien est même pas obligée d'avoir quoi que ce soit d'installer sur sa machine. C'est hyper bien construit. Et ça permet de faire du pair programming, soit en suivant un développeur, soit en lançant la compilation sur le PC de la personne qui t'a invité dans le pair programming et pouvoir voir s'exécuter les tests. Tu peux être à deux à écrire chacun dans un coin du code, tout en étant en call. Et du coup, quand t'es en train de régler un problème avec quelqu'un, tu peux dire, toi, tu t'occupes de ça, moi, je vais m'occuper de ça. Et en fait, tu es sur la machine de la personne qui te host. C'est fluide, ça marche hyper bien. Voilà, c'était ma recommandation en ces temps où on fait beaucoup de distanciel. Pour le pair programming, je trouve que Code With Me d'IntelliJ, c'est génial. Voilà.
C'est cool. C'est pas codé en Rust, contrairement...
Non, ça doit être du Java là pour le coup.
Non, mais juste une parenthèse, mais quand tu disais, Quentin, t'as besoin de rien sur ta machine, en effet, il te file un script bash à exécuter quand même, mais globalement, ça te télécharge Java. Je crois que ça télécharge également en fait une version standalone de IntelliJ. Donc t'as même pas besoin d'avoir vraiment quoi que ce soit sur ta machine.
Ouais, c'est télécharger vraiment, une sorte de mini IntelliJ, c'est-à-dire la ouais. partie, la base qui leur sert à tous leurs IDE, pas que IntelliJ, enfin tous les autres qu'ils ont. Ça télécharge cette base-là avec les outils de communication qui permettent de visualiser et leur OpenJDK QK qu'ils utilisent en interne, parce qu'ils ont une version forkée d'OpenJDK pour régler des problèmes spécifiques de fonte et de machin comme ça, pour que ça ait une bonne gueule dans les IDE.
Qui sait que fault sur ma machine en ce moment mais... C'est dingue.
J'en suis là, ouais. et voilà. Il faut avoir un tout petit peu de place quand même pour télécharger ça. Ça va faire quelques centaines de mégas, mais c'est pas foufou.
C'est une pratique que vous avez chez Cosa Vostra ou pas du tout
Non, pas du tout.
Moi, je sais que c'était une pratique que je trouvais pénible jusqu'à ce que les outils s'améliorent.
Ouais.
Là, franchement, j'ai l'impression de voir la... Enfin, dans la boîte, j'ai l'impression qu'on l'utilise de plus en plus. Et clairement, c'est la qualité de l'outil qui fait ça, quoi.
Moi, j'étais très sceptique aussi sur le mob programming que j'ai testé pas plus tard que cette semaine, parce que je donne des cours maintenant aussi dans une école qui s'appelle la Data Tech School. Et j'ai fait une après-midi de mob programming. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est fatigant. Mais c'est génial.
Mais non, c'est quoi du coup?
Mob, pour expliquer
Mob. Bon, en fait, c'est comme du pair programming, mais à 6.
D'accord, ok.
Donc, tu as 6 sur une machine, sur un code. Et c'est assez fun et c'est assez ouf.
Ok.
Mais c'est dense.
Ouais, mais du coup, imagine 6 devs qui codent ensemble. Enfin, t'imagines le brouhaha que ça peut générer.
Ouais, et du coup, ce qui est.
À certains moments, mais c'est vraiment intéressant.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des erreurs du coup qui ont été commises ou pas? Enfin, dans le sens, tu vois, je sais pas, des bugs. Parce que déjà à 2, voilà, t'en es vite, alors à 6.
Alors, déjà, c'est dans un contexte de cours, donc forcément, t'as des développeurs juniors. Oui. Mais effectivement, en fait, okay. on en a quasiment eu aucun à la fin, effectivement.
Ok, moi, c'est cool.
Collaboratif. Et donc, dans la série des outils qui prennent de la mémoire sur le laptop, on évoquait un tweet de comment s'appelle-t-elle? Parce que là, j'ai que le pseudo.
Marabos, je pense. Ouais,
c'est ça. De Marabos. Et en fait, qui parle justement du fait que la totalité des crates Rust, actuellement, tient dans à peu près 63 gigas, je crois, ou 62 gigas, je ne sais plus exactement.
Ouais, 63 gigas.
Donc, en gros, elle s'est amusée sur son laptop qui en a 64, ou un peu plus.
En plus, je crois encore.
Plus, ouais, elle en a peut-être plus, en tout cas.
Elle s'est fait... Enfin, elle a un laptop assez monstrueux.
Ouais, elle a chargé tout, j'imagine, dans un système mémoire, et donc elle rip-grape sur la totalité des crates en live pour aller chercher des trucs. C'est plutôt assez... C'est plutôt amusant, en fait.
C'est ça, de ce que j'avais compris, c'est une des team leaders des crates ou un truc comme ça, je suis pas exactement sûr, mais du coup j'imagine que quand tu...
C'est la library team lead, en fait, dans la Rust langue, c'est tous les gens qui font en sorte que la partie librairie de Rust avance proprement.
Ouais, ok.
Donc c'est quelqu'un de très important dans l'écosystème qui fait un super gros boulot.
Yep.
Donc des crates actuellement, il y en a à peu près 500 000 en gros, hein, donc ça commence à être un gros truc à gérer.
Ouais. Et du coup, j'imagine quand t'es lead de ça, parfois t'as envie de voir peut-être si un changement pète combien de crates, ou dans le sens genre combien de crates utilisent tel truc, du coup ouais, faire un rip-grep sur l'entièreté de la chose dans ta RAM, ça va être assez pratique, agréable pour développer pour valider ou pas en fait si un changement doit être effectué peut-être.
C'est une alternative amusante à faire des repository managers avec des metadata qui met dans une DB, quoi.
Exactement.
C'est l'exercice qui est amusant. Après, je sais pas si elle va en faire une pratique parce que ça va augmenter au fur et à mesure. Alors peut-être que ça va suivre la loi de Moore et son laptop, mais il y a un moment où ça peut quand même devenir un peu critique.
Ça va mal se mettre.
Je pense que c'est le snapshot, en fait, surtout. Je pense pas que ce soit l'historique de la totalité des paquets.
Ah ouais, probablement pas, ouais. Ouais, probablement pas.
Entirety of crates.io, almost half a million crate versions. Donc quasiment 500, non, enfin quasiment 500 000 versions de Cry. Donc a priori, si, c'est peut-être bien tout l'historique. Hein.
Ah, là, tu me diras sur lesquelles parle de versions. Ouais.
Ouais.
Bah, du coup, je trouvais ça hyper drôle qu'on puisse mettre tout Crate sur sa machine et jouer avec, quoi. Et je me dis que pour l'instant, on pouvait pas le faire avec ma vanne centrale. Et en fait, c'est quand même essentiellement lié au fait qu'en fait, Crate, ce que tu stockes, bah, c'est le code source. Et en fait, tu recompiles tout. En fait, la façon dont fonctionne Crate, c'est que tu downloads le code source de ta dépendance et à la fin, tu compiles tout, en fait.
Yep.
Bien à plat. Et donc, en fait, du coup, le code source, ça pèse pas lourd.
Et même s'il n'y avait que le code source de ma bonne centrale, je pense que ça prendrait un peu plus. Pour plein d'autres raisons. Mais ouais.
Ouais, après, tu sais, dans chaque jar, en général, on package quand même un sacré paquet de merdier.
C'est possible.
Par rapport au code source. Hein.
C'est possible. Yep. Après, Quentin, il y avait. Tu avais mis un lien sur la Linux Hardware Database, si tu veux en parler un peu.
Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'outils de l'épisode ce coup-ci. Alors, pour ceux qui font du Linux et qui aiment compiler leur kernel, y a un site très pratique qui s'appelle linux-hardware.org, qui est une sorte d'endroit dans lequel, pour chaque matos que vous allez identifier, vous allez avoir un truc qui vous dit, bah, ce matos-là, il est supporté depuis telle version du kernel, faut activer telle option, quoi. Et après, vous n'avez plus qu'à faire votre petit script enable, config moins e, etc. Et vous activez dans le kernel Linux, enfin dans votre config du kernel Linux, les options liées à ça. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Ou alors, le machin vous dit, bah ça c'est l'Adobe. Ou alors, ça, il y a moyen d'activer le support pour tel matos, soit les patcher votre kernel. Enfin, ça c'est quand ça part mal.
Voilà. Oui, il manque tel driver supplémentaire qu'il faut aller télécharger sur tel site exotique.
Exactement. Mais c'est le site, enfin, linux-hardware.org, c'est la database de comment est supporté le hardware donné sous Linux, quoi. Et en fait, ils ont un tools dont je m'étais jamais servi avant, alors qu'en fait le truc est trop bien, qui permet de créer ce qu'ils appellent un probe. Et en fait, globalement, le probe, c'est le LSUSB, LSPCI, le truc va juste récupérer la totalité de votre matos, en fait. Il en fait un petit paquet, il l'envoie à Linux Hardware, qui du coup en fait un paquet qui dit bah c'est votre matos. Et en fait, ça vous fait une liste avec tout votre matos et les options à ajouter dans le kernel pour le matos donné, les options ajoutées dans le kernel pour que ça se passe bien. Et en fait, ça rend la configuration de votre Linux hardware vachement plus simple. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. La probe en elle-même, c'est un script Perl, mais ça a été gentiment et proprement packagé sous forme de app image, de Docker, de Snap, de tout ce que vous voulez, quoi. Et j'ai trouvé ça très pratique et ça me permettait de vous parler de l'intérêt d'avoir Linux Hardware qui est quand même quand on veut régler des problèmes de compile de config de son Linux pour un hardware dédié, c'est quand même c'est un super outil, quoi.
On rappelle au passage que tout le monde recompile pas son kernel et que souvent c'est dommage. Et que la plupart des distros généralistes, en fait, ont des kernels qui sont compilés avec toutes les options possibles pour supporter un maximum de hardware possible. Et que, du coup, on parlait de sécurité plusieurs fois dans cet épisode, en termes de surface d'attaque et de potentiel de bugs ouverts alors qu'on n'en a pas besoin, c'est pas terrible, quoi. Et puis de lourdeur aussi du kernel qu'on charge à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, ça permet d'avoir un kernel optimisé pile-poil pour son matériel et diminuer la surface d'attaque. Donc c'est quand même assez intéressant.
Et par ailleurs, ce site web est quand même très pratique parce que du coup, comme des gens uploadent des probes, les mettent en public en ayant nommé le laptop, ça vous permet de retrouver le laptop que vous êtes en train d'acheter et de vous poser la question de combien il va être supporté et par exemple, ne pas vous retrouver avec une satanée webcam qui a décidé qu'elle avait décidé de ne pas tourner sous Linux, ce qui peut devenir très pénible comme opération.
Et du coup, historiquement, des cartes Wi-Fi, même si c'est moins en moins le cas.
Ouais,
ça peut être assez pénible.
Ouais. Mais globalement, c'est ça. Et du coup, il y a de la stat sur comment marche les applis, et après ils font également le différentiel par par distribution, avec ça marche sous tel distrib, ça marche pas sous tel distrib. Bon, comme nous on est sous Exerbo avec Arnaud, globalement à chaque fois c'est va crever dans ton coin et fais tes tests, quoi. Mais au global, ouais, c'est assez cool.
Ça, pour les discours, j'aurais bien aimé le connaître plutôt, ce site, ouais, clairement.
Tu viens d'avoir un nouveau matériel, oui.
Allez, ce week-end, c'est... je RM ma config kernel, oh, et on recommence tout de zéro pour c'est le ça. Fun. Non,
mais... En vrai, tu peux faire une prob et regarder. Parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir prob qui s'exécute, c'est qu'il va te dire genre, bah, en fait, t'as ça, mais manifestement, il marche pas. Et du coup, si tu penses à activer telle option du kernel, normalement, ça devrait faire des chocs à pic, quoi.
Mais peut-être qu'en effet, je comprendrais enfin pourquoi, quand je branche par exemple les écrans du bureau qui font aussi hub, etc., pourquoi est-ce que moi ça ne marche pas en USB-C. Voilà, tout à fait. Ouais.
Par contre, faudrait
que ça, c'est le genre de truc vraiment chiant.
Brancher.
Oui, ouais. Mais voilà.
Et tu crois que prob, ça marche si tu branches un dongle USB-C Apple? Tu crois qu'il va détecter quoi?
Ouais, bien sûr, mais en fait, il a un code fournisseur. Non, et je te rappelle qu'il y a des bandes de malades qui ont décidé qu'il fallait faire une compat nickel d'Apple sous Linux. Et donc, non, t'as des gens qui bossent à fond sur le support Linux de tout le matos Apple à chaque fois.
Notamment du M1, ouais.
Et notamment sur le M1. Et les gens qui font ça sur le M1 sont passionnants à lire parce qu'ils rétro-ingénient toutes les instructions du M1, toutes les instructions graphiques à la con où Apple a fait son truc en disant genre, bah moi je vais faire ça comme ça, ce sera rapide, ce sera bien, et puis bah la doc, bah il y en a pas, tu vois, genre de toute façon c'est le driver vidéo du pour Mac, donc genre c'est pas votre problème. Et c'est vraiment très intéressant ce qui sort sur le MMA.
Je fais reverse engineering. On a fait le tour des outils et puis on a fait un bel épisode, et donc on peut te remercier de nous avoir accompagné, Bruno.
Merci de m'avoir invité.
Et c'était vraiment cool.
Comme à chaque fois, du coup, comme maintenant on a presque à chaque fois, ou en tout cas très souvent des invités, on va pas tirer au sort pour savoir qui donne la musique, c'est l'invité qui donne la musique du jour. Et peux-tu nous présenter ce que tu as choisi?
Alors, j'ai choisi un groupe du nord de l'Angleterre, je crois, qui s'appelle Kak Madafaka, qui a écrit un morceau que j'aime énormément, qui s'appelle Kundu. Qui est un truc très rock anglais, vraiment rock, c'est pas du rock pop, c'est du vrai rock. Il est vraiment fun, il est vraiment agréable, et c'était une des sources d'inspiration pour mon générique de mon podcast. C'est un morceau qui me fout toujours la patate, c'est que j'aime
bien.
C'est bon, hein.
C'est bien. Écoutez l'intro parce qu'on n'aura pas en entier, puis après enchaîner avec un générique équivalent.
Alors, la musique commence au bout de 5 secondes, je crois que je me suis fait avoir. J'ai monté le son.
On décale.
Non, c'est sympa.
Et ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Bisous.
Merci.
Salut.
À bientôt.